Radio Courtoisie.
Dans le froid et la famine, par les villes et par les champs, à l'appel des victimes, marchaient les partisans.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 25 juin 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir. Ça va-t-il?
Ça va-t-il, ça irait mieux s'il faisait moins chaud, mais enfin, oh, bah, faut bien original, supporter. Ça. Bah voilà,
alors,
bah voilà.
Victoria, on est tranquille. En hiver, ça irait mieux s'il faisait moins froid.
Pas du tout, j'aime mieux.
En automne, ça irait mieux s'il pleuvait moins.
Vous me voyez transformé en oignon l'hiver, un pull, deux pulls, trois pulls, quatre pulls, six pulls.
Est-ce que vous avez remarqué l'éteint des roses?
Mais de quoi se plaindre, Victoria? Il y a une machine d'air conditionné superbe à la porte.
Bah oui, mais elle est fermée parce que ça fait trop de bruit.
L'oignon, donc, va bien.
Alors, voilà.
Bon, vous avez entendu à peu près toutes les voix. Donc, Victoria à ma gauche, en face de Victoria, Roger Olindre. Je ne sais pas pourquoi tu te négrifies avec l'âge.
Ah bon, pourquoi je
négrifie? Il bronze.
Ça n'est pas la vie de château, mais je travaille comme une bête.
Ça n'est pas la vie de château, virgule. On connaît la chanson.
Alors, c'est sûr que avec le soleil qu'il fait, j'ai bronzé.
Alors, un nouveau que j'ai jamais reçu dans cette émission, bien que j'en parle depuis très très longtemps et que je considère que c'est un de mes meilleurs amis, monsieur Klaus Steiger, alias Claude Steiger, restaurateur à Paris. Et c'est pas pour ça que c'est un de mes meilleurs amis, parce que je fréquente assez peu ton établissement, parce que comme je tiens à ma ligne, j'évite de manger des...
Et c'est trop loin de chez vous, d'ailleurs.
Oui, c'est au moins à 300 mètres de chez vous.
La choucroute étant un vrai plat de régime, tu as de bonnes raisons de t'en venir.
Voilà, donc, Claude Steiger, et puis la personne que vous venez d'entendre, qu'est-ce qu'il y a encore, Victoria?
Ne dites pas.
Patrick Goffman, ça va?
Ça va très bien, merci Serge Debekech. Bonsoir aux auditeurs du monde entier, et en particulier à ceux de Lille et de la région, et à ceux du 15e arrondissement de Paris. J'ai de bonnes nouvelles pour eux.
Ah bon, bah c'est bien.
Oui, c'est bien.
Dans le 15e, en tout cas, ça va les étonner. Parce que... Tiens, à propos de Paris... non, je dirais ça quand j'aurai fini la présentation, parce que autrement, la dernière personne qui est une personne respectable, donc je suis obligé de mesurer mes propos, c'est Michel de Gégère. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Il faudrait peut-être, est-ce qu'il peut vous emprunter votre micro, parce que il y a un micro en panne. Ça arrive dans toutes les grandes familles, c'est des tragédies.
Ça a les pannes de micro.
Michel, je vous donne la parole très rapidement parce que je sais que vos occupations vous occupent.
J'ai tout de même le temps de venir à Radio Courtoisie et je vous en remercie beaucoup.
Alors, cette année, de quoi est-ce qu'on va parler ? Avec Michel, on va parler, comme tous les ans, de l'université d'été de Renaissance catholique, qui cette année sera spécialement intéressante, comme tous les ans d'ailleurs. À ce propos, viennent de paraître les annales de l'université d'été. Alors, on donne la date ou...
Oh oui, je crois qu'on est obligé de donner la date. Donc, ce sont les actes de l'université d'été de 1999, voilà. Donc qui paraissent avec 4 ans de retard, mais j'espère que c'est comme les bonnes bouteilles, ouais. Ils ont profité du vieillissement.
Alors, moi, j'ai fait comme tous les journalistes, j'ai relu mon papier, et je dois dire que je l'ai trouvé remarquable.
Mais je pense que l'avis sera partagé par tous les lecteurs. C'est un gros livre de 600 pages qui nous a donné un petit peu de mal, donc ce qui explique un petit peu de retard à l'allumage et qui est consacré à la repentance, thème qui était extrêmement d'actualité où on l'a traité lors de l'université d'été de 1999, qui pourrait paraître l'être moins, mais la Providence nous a donné un coup de pouce puisque justement Jean-Paul II a profité de son voyage en Bosnie-Herzégovine pour appeler au pardon réciproque des catholiques et des autres confessions religieuses dans la région. Et je crois que tous ceux qui sont intéressés par cette question de la repentance, par cette question des demandes de pardon, doivent lire ce livre parce que, justement, nous faisons le point sur tout ce qui a été fait dans ce domaine et sur un certain nombre de manipulations qui ont entouré la démarche du pape qui, lorsqu'on lit les textes avec attention, n'est pas du tout ce qu'on en a raconté. Donc je crois que c'est un livre, ça s'appelle La repentance, pourquoi nous ne demandons pas pardon. C'est un livre qui essaye, à travers donc la recension de toutes les conférences qui ont eu lieu en 1999, de faire justice des accusations qui ont été portées contre l'Église, et puis de montrer un petit peu qui sont les gens qui portent ces accusations, mais qui en même temps a essayé de démêler la vraie nature de cette démarche de demande de pardon, quels en étaient les enjeux, quelles en avaient été les manipulations.
C'est vraiment un excellent bouquin. Il y a des conférences, des textes, puisque ce sont des conférences qui ont été transcrites, qui sont remarquables, très, très, vraiment excellents.
Alors c'est un livre qui ne se vend que par correspondance, non pas accès au réseau des librairies, donc qui peut être commandé à Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92-130 Issy-les-Moulineaux, et qui coûte 29 euros, ce qui est donné pour le... Je ne sais pas.
On dira, c'était donc une bonne question.
On dira que c'est port compris pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Si voilà. Vous dites auditeur de Radio Courtoisie, vous avez droit au port gratuit. Et étant donné la taille du bouquin, ça représente une économie notable. En plus, port compris, l'avantage, c'est que ça élimine la clientèle. Certaines clientèles. Je ne rentrerai pas dans le bétail.
Et le titre du bouquin
est... Le titre du bouquin est « Pourquoi nous ne demandons pas pardon ?»
Les signatures, quand même, on va
dire. Je dois dire que je suis entièrement d'accord, parce que j'en ai marre quand je suis toujours en train de s'excuser et de demander pardon.
Alors, il y a Jacques Trémolet de Villers, Jean Dumont, Dominique Vien, l'abbé Christophéry, Jacques Hers, Hilaire de Crémier, Philippe Conrad, Édouard Boulogne, Rénal Sécher, Arnaud Jaillir, Jean-Pierre Mongendre, Michel de Gégère, je vais t'en répéter encore une fois,
Et Serge de Becquet,
serviteur.
Donc dans une excellente conférence.
Les sujets sont très divers. C'est le dernier livre qui publie un texte de Dumont, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, le livre est dédié à Jean Dumont, parce que tout ce livre, qui est un ouvrage de défense de l'Église, de défense de l'honneur de l'Église, de défense de la foi, eh bien s'inscrit dans le sillage de l'œuvre de Jean Dumont. Jean Dumont est un peu le père spirituel des universités d'été. C'est à partir de son œuvre, de son action, de son livre « L'Église au risque de l'histoire » que nous avons conçu, il y a une douzaine d'années, nos universités d'été. C'est un peu autour de lui, autour de son inspiration. Et donc, nous voulions lui rendre hommage dans ce livre qui correspond tellement à sa pensée, à ce qu'il a voulu faire, et dans lequel il donne effectivement la dernière conférence qu'il a donnée pour Renaissance catholique avant de mourir.
Même à son caractère, je trouve que l'université d'été de Renaissance catholique devrait s'appeler l'université Jean Dumont, parce qu'il y a ce mélange de sérieux dans le travail, d'intérêt dans les conférences, et puis de joie de vivre, parce que Jean Dumont était un homme extraordinairement joyeux.
Oui, je crois qu'il nous a beaucoup marqué. Il a donné son caractère, comme vous le dites, à nos universités d'été. Il nous manque beaucoup, mais nous essayons de prolonger son inspiration, son œuvre à travers nos travaux.
Alors, dans ce recueil, dans ces annales, l'article, la conférence qu'il donne est consacrée à l'Inquisition, la vérité sur l'Inquisition, l'exemple de l'Inquisition. Dominique Vien s'est attaqué à un sujet tout à fait intéressant et difficile, pour mille raisons, l'Église et les Juifs. Jacques Trémollet de Villers parle des croisades. L'abbé Christophe Héry avait fait une conférence brillante sur le cas Galilée, qui mettait bien les choses au point. Jacques Herse, merveilleux historien du Moyen-Âge, entre autres, l'Église contre la morale, le cas des Borgia. Hilaire de Crémier, les premiers persécuteurs de l'Église. Philippe Conrad, l'envers des guerres de religion. Édouard Boulogne, esclavagiste et... j'ai un problème de prononciation. Esclavagiste et négrier. Sujet tout à fait intéressant aussi. Rénal Secher, qui sacrifie à son péché mignon, si j'ose dire, en consacrant sa conférence au crime des Lumières. C'est très intéressant en ce moment de lire ce texte à cause de quelque chose que je vous dirai tout à l'heure. Arnaud Jaïr, grandeur de la civilisation chrétienne. Jean-Pierre Maugendre, défendre l'honneur de l'Église. Alors il faut venir à l'université d'été dans les sciences catholiques, même si vous venez simplement le dernier jour pour entendre le discours de clôture qui est généralement prononcé par Jean-Pierre Maugendre.
Oui, qui est un orateur qui n'a pas besoin de micro, même s'il y a 2000 personnes.
Si on pouvait avoir un micro qui atténue la voix, ça rendrait service à beaucoup de monde. Mais il a une voix de bronze, littéralement. Et c'est très... Ce qui est frappant, c'est que cette voix de bronze, elle est au service d'une diction parfaite et d'une rigueur de langue qui est très étonnante.
Mais beaucoup d'historiens disent, au fond, tous les discours de l'Antiquité, on ne les connaît pas, personne ne les entendait. Quand des généraux romains parlaient devant leurs armées, personne ne devait entendre ce qu'ils disaient. Le Christ, quand il parlait sur le mont des Béatitudes, personne ne savait au juste ce qu'il disait, puisqu'il n'avait pas de micro. Mais ces gens-là n'ont pas assisté à un discours de Jean-Pierre Maugendre, sinon ils sauraient que c'est possible.
À propos du sermon sur la montagne, ils n'y voyaient aucun blasphème. Il y a une des scènes les plus drôles de l'histoire du cinéma, c'est le sermon sur la montagne vu par les Monty Python dans Sacré Graal, où à mesure qu'on s'éloigne de l'orateur, si j'ose dire, les gens se disent « mais qu'est-ce qu'il a dit ?» Et alors, c'est le jeu du furet, c'est-à-dire que chacun donne son interprétation de ce qu'il a entendu. Et naturellement, à 500 mètres du centre, ça devient assez pittoresque. Voilà. Mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, ça c'est pour la conférence, l'université de 99. Il y a à apparaître maintenant l'université 2000, 2001, 2002 et à faire l'université 2003.
Voilà. Normalement, nous nous sommes donné comme objectif dans les deux ans de rattraper notre retard et de publier d'ici deux ans tous les actes 2002 compris. Pour 2003,
alors 2003,
on attendra.
Quel sera le sujet ? Quel est le sujet ?
Le sujet de 2003, c'est le choc des civilisations pour une université qui va se tenir à côté de Versailles, à Villepreux, dans le cadre magnifique du château de Grand Maison, du 13 au 16 juillet prochain.
Il faut décrire un petit peu le château de Grand Maison, on l'a déjà fait, mais je trouve que c'est un endroit tellement merveilleux.
C'est un endroit très merveilleux où nous sommes reçus par quelqu'un de merveilleux qui est Monsieur de Saint-Seine, qui nous invite dans ce magnifique domaine, qui sont en fait les communs du château. Mais alors quand on voit les communs, on se demande comment doit être le château, parce que ce sont des communs qui ont été restaurés depuis 20 ans par Monsieur de Saint-Seine avec un goût exquis, avec vraiment une sûreté incroyable, qui sont des bâtiments magnifiques dans une campagne verdoyante et qui donne à nos travaux un caractère champêtre et extrêmement attractif. Quand je dis travaux, qui n'a pas été à l'université d'été peut penser qu'il s'agit de journées très studieuses. Bon, il y a une partie qui est studieuse, mais il n'y a pas qu'une partie studieuse. Nous essayons de concentrer les conférences magistrales sur les matinées et d'avoir des après-midi qui combinent un aspect un peu plus récréatif et puis aussi des travaux pratiques.
Il y a même eu, il y a quelques années, on peut le dire maintenant puisque c'est prescrit, une soirée qui a été consacrée à un pastiche de Radio Courtoisie qui, paraît-il, avait eu un certain succès, voire même un succès certain.
Oui, je dirais que c'était une très bonne émission de Radio Courtoisie. Il ne manquait que les moyens techniques pour la retransmettre.
Alors, quels sont les orateurs?
Alors, le choc des civilisations, ben, disons, ce que nous avons voulu d'abord essayer de faire, c'est de combattre l'idée de la croisade des démocraties contre le terrorisme islamique. Nous pensons que cette idée est une fausse idée, est une impasse dans laquelle on essaie de nous enfermer, que surtout nos milieux, je dirais catholiques traditionnels, sont évidemment sensibles à l'idée de croisade, sensibles à l'idée de choc des civilisations, sensibles bien entendu à la menace musulmane qui est réelle et qu'il ne s'agit pas de nier, mais nous pensons que cette menace réelle, qui a été pour une grande part favorisée et mise en place autour de l'Europe par l'alliance des Américains et de l'islam, eh bien cette menace est instrumentalisée au service de l'hégémonie américaine et de la démocratie mondialiste. Donc nous avons organisé cette université d'été un peu pour dire à nos amis, ne nous trompons pas de combat, l'islam est là, c'est une menace, mais la réponse à l'islam, c'est certainement pas la démocratie universelle, l'abaissement des frontières, le mondialisme, la réponse à l'islam, c'est la chrétienté. Et donc, soyons des catholiques fervents, soyons des catholiques de combat, et la menace de l'islam, nous saurons y faire face. Et pour être des catholiques de combat, il faut commencer par ne pas se laisser, je dirais, décérébrer par le matérialisme que diffuse la pensée américaine, la pensée démocratique. Donc c'est un petit peu le thème que nous avons voulu développer, avec une conférence inaugurale qui sera principalement consacrée justement à cette question de savoir, depuis le 11 septembre, est-on passé à un choc des civilisations? Y a-t-il une guerre des civilisations? Que faut-il en penser? Comment nous situer par rapport à ce choc des civilisations? Conférence qui sera prononcée par Philippe Conrad, avec ensuite une conférence de Claude Rousseau, que je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, professeur Claude Rousseau, qui viendra traiter de cette question évidemment cruciale, dont la réponse est peut-être évidente, mais qui a aussi besoin d'être argumentée, qui est « Toutes les civilisations se valent-elles ? » Vous savez qu'il y a une mode intellectuelle depuis des décennies de mettre sur un plan d'égalité non seulement les races, mais maintenant les civilisations. Nous pensons tout de même que si nous sommes attachés à la civilisation occidentale et chrétienne, c'est parce qu'elle a apporté plus au monde que la culture tout à fait respectable d'autres populations qui n'ont pas le même message, la même vocation universaliste et qui ne sont pas portées et sublimées par le christianisme. Et puis, nous aborderons bien entendu certains aspects qui sont liés à la menace, à la montée de l'islam activiste. Nous poserons la question des mythes et des réalités de la civilisation musulmane. Vous savez qu'il y a une espèce de légende pseudo-universitaire selon laquelle, finalement, l'islam aurait tout inventé et aurait développé au Moyen-Âge une civilisation, au fond, bien supérieure à la civilisation chrétienne. Bon, je voudrais en faire le point. Il ne s'agit pas de donner une vision caricaturale des choses, expliquer que la civilisation musulmane n'a pas de noblesse, de caractère, de contenu. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire la part entre les mythes et les réalités.
Vous me permettez d'interjeter une anecdote qui est tout à fait pertinente par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a quelques années, des lexicographes de ma connaissance ont envisagé la rédaction d'un dictionnaire des termes arabes passer dans le français. Et ils ont renoncé, non pas faute de marché, vous pensez bien, le marché était là, mais parce qu'ils n'ont pas pu en trouver plus d'une soixantaine et que c'était un peu maigre pour un dictionnaire. Je crois que c'est une anecdote qui rend justice à cette légende.
Oui, de la même façon, si vous allez à Constantinople, enfin à Istanbul maintenant, et que vous visitez Sainte-Sophie, bah, vous comprenez que quand même, quand après vous visitez la mosquée bleue, c'est la même architecture. Donc je veux bien qu'il y ait une beauté de l'architecture musulmane, mais enfin, nettement, il y a eu d'abord emprunt à la civilisation byzantine. Et je pense que dans un certain nombre de domaines, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que la civilisation musulmane n'a rien apporté, mais il y a un paradoxe qui est l'un des paradoxes de notre temps, c'est que d'une mode à l'autre, on passe de l'inexorabilité de la montée de l'islam à la sublimation de l'islam. C'est-à-dire que l'islam est soit ce qui nous a tout apporté, la civilisation avec un C majuscule, soit la menace avec un grand M, devant laquelle toute autre considération devrait plier. Donc nous voulons sortir des fantasmes et essayer de revenir à la réalité. Ça sera la mission d'une spécialiste de l'islam universitaire qui s'appelle Anne-Marie Delcambre, qui viendra nous parler de ces mythes et réalités de la civilisation musulmane, et puis aussi d'Emeric Choprad, qui est spécialiste de géopolitique et l'auteur de cette somme sur la géopolitique publiée aux éditions Ellipse, qui est un maître livre, et qui viendra lui essayer de traiter les leçons politiques des affrontements islam-chrétienté. Encore une fois, notre objet n'est pas de nier la menace islamique, la menace musulmane, mais de nous poser la question, face à cette montée de l'islam, quelle réponse ? Et nous pensons que la réponse globalisante de la démocratie américaine n'est pas la bonne réponse, et que c'est dans l'histoire des affrontements entre islam et chrétienté, que l'on peut trouver des réponses applicables pour notre temps. Et puis nous sommes un mouvement catholique, nous poserons la question des rapports de la civilisation et du christianisme avec une conférence sur Saint Pie X. Vous savez que c'est l'année Saint Pie X, c'est le centenaire de l'élection de Saint Pie X au pontificat, et Saint Pie X est l'apôtre de la civilisation chrétienne, et une conférence sur l'inculturation où l'abbé Dominique Vatan, viendra se poser la question des rapports de la splendeur de la liturgie et de l'inculturation et des dérives dont cette inculturation a fait l'objet. Et puis nous aurons le témoignage d'un missionnaire en terre d'islam. Qu'est-ce que c'est que comment enseigner la foi catholique en terre d'islam? Comment faire pour convertir les musulmans? Je crois que c'est une question qui est tout à fait d'actualité en Afrique, où ce missionnaire opère, et puis peut-être pas seulement en Afrique, parce que l'un des grands drames de notre temps, drame qui remonte à plusieurs décennies, est que dans nos rapports compliqués avec les musulmans du Maghreb du temps de la présence française comme aujourd'hui, on s'est jamais posé la question de la conversion de ces musulmans. Peu de gens se sont posé cette question, et c'est peut-être une des tragédies de notre temps. Nous aurons aussi, je vous disais, des travaux pratiques. Serge de Bekech le sait, il a l'un de ses travaux pratiques en charge, puisqu'on essaiera de rééditer un exercice que nous avons fait l'année dernière avec, je crois, beaucoup de succès. C'est-à-dire que ça a beaucoup plu aux gens qui étaient là, qui sera de décrypter un feuilleton télévisé. C'est-à-dire que je crois que beaucoup de gens sont conscients que l'information télévisée telle qu'elle est diffusée par les grandes chaînes d'information est un canal de désinformation à peu près permanent, mais les mêmes, après avoir dit à leurs enfants que ce qu'on disait à la télé, il fallait pas tout prendre au sérieux, les laissent regarder un certain nombre de séries télévisées, de feuilletons qui charrient les valeurs de la décadence, les valeurs de la décomposition de la société et de la civilisation. Donc nous essaierons de faire cet exercice qui consiste à apprendre à regarder. Dire, bon, vous regardez un feuilleton, vous regardez une série, c'est distrayant, c'est bien, bravo, mais qu'est-ce que vous avez regardé? Au fond, quel est le message qu'on vous a passé? Quels sont les modèles que l'on vous a inculqués? Moi, j'ai été très frappé il y a 3 ans par une conférence de Serge de Bekech. C'était une université que nous avons consacrée à l'islam. Le 21e siècle sera-t-il musulman? Où vous nous aviez dit, Serge, au fond, qui nous impose le modèle de la société multiculturelle? Est-ce que ce sont les pauvres qui frappent à notre porte et qui viennent par milliers? Oui, ce sont eux, mais ce ne sont pas seulement eux. Est-ce que ce ne sont pas aussi les séries américaines qui diffuse systématiquement ce modèle de la société multiculturelle comme un bien? Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de messages subliminaux dont nous sommes les récepteurs et finalement les victimes, et que nous sommes un mouvement de famille, donc de parents. Je crois qu'il faut alerter les parents et les grands adolescents sur la camelote qu'on leur vend quand ils croient simplement regarder un film d'action.
Une note d'optimisme en passant, nous sommes quand même déjà 3 millions de sans télé en France.
Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Mais je crois que c'est bien d'être sans télé, mais c'est bien aussi d'apprendre à ceux qui ont la télé à regarder la télé intelligemment. Il y aura toujours des gens qui regarderont la télé, il y a quand même des choses intéressantes à la télé, il faut savoir la regarder.
En plus, le formatage des esprits ne passe pas, hélas, que par la télévision. Et si on peut échapper au formatage par la télévision, soit en n'ayant pas la télévision, soit en apprenant à la regarder, on ne peut pas échapper au formatage de la rue, sauf si on sait regarder ce qu'on nous montre. Par exemple, j'invite les auditeurs à s'arrêter en ce moment, spécialement en ce moment, sur toutes les campagnes de publicité qui sont faites pour des organismes d'État, pour des institutions d'État, des assurances ou para-étatiques d'assurance, des banques, des grandes compagnies, France Télécom, la SNCF, la RATP, etc. Et à regarder ce qu'on appelle les visuels des affiches. Les PTT, enfin la Poste aussi. Regardez les visuels des affiches. Vous verrez quelque chose qui ne manquera pas de vous frapper à la troisième affiche. Vous verrez que c'est absolument systématique le choix des personnages montrés et le choix des couples montrés est systématique. Dès qu'il s'agit d'une campagne d'État, on utilise le même genre de visuel avec le même genre de personnage, ce qui constitue une normalisation, une normatisation d'un phénomène qui est un phénomène probablement réel, mais qui reste un phénomène, comment dirais-je, périphérique, et qu'on est en train de rendre un phénomène central, qu'on est en train d'accréditer comme phénomène central dans la société française actuelle. Et ça, donc, c'est le formatage des esprits par la publicité. C'est-à-dire, comme toutes les pubs montrent la même chose, les gens finissent par croire que c'est ça qui est normal.
Ça va très loin. Je regardais hier, ma fille avait un petit livre de catéchisme sur « Je fais ma première communion », un livre pour enfants avec des dessins pour enfants, qui représente une première communion, la préparation, la première communion, etc. Et ça présente une famille française, enfin blanche, modeste. Je veux dire modeste, on voit par, c'est des gens moyens, etc. Et les parents sont blancs, les grands-parents sont blancs, tout le monde est blanc. Et puis il y a une petite fille noire. Alors c'est pas du tout illégitime qu'il y ait une petite fille noire. Mais pourquoi dans cette famille où tout le monde est blanc, il y a une petite fille noire? Est-ce que c'est indispensable? Parce que dans toutes les familles, il y a une petite fille noire. Je n'ai rien, je le précise, contre les petites filles noires. Et puis on peut très bien avoir adopté une petite fille noire. Oui. Et si en plus elle est chrétienne, c'est très bien. Mais c'est bizarre que dans la famille type qui prépare la première communion, il y ait forcément une petite noire. Je crois que maintenant c'est devenu, ça c'est hérité des séries américaines, je pense qu'on aurait mauvaise conscience à faire une famille entièrement blanche.
Alors bon, les quotas, c'est-à-dire que... Voilà. Aux États-Unis.
La question que doivent se poser les enfants qui regardent ces bouquins, c'est d'où vient le facteur?
Voilà.
Parce qu'il n'y a pas d'autre explication génétiquement.
Alors pour l'instant, il y a des quotas de noirs à la télévision et on nous annonce doucement, on nous prépare à ce qu'il y ait des quotas de noirs dans les familles. Alors soyez honnêtes quand même tous les deux et mentionnez l'exception qui confirme la règle. Quand on demande de l'argent, qu'il s'agisse du secours populaire ou de donner du culte, vous avez remarqué comme moi que quand il s'agit de taxer les gens, de faire appel à leur générosité, là les visuels sont tout blancs. C'est peut-être un hasard.
C'est probablement un hasard, oui.
Voilà, alors donc la dernière journée, je voudrais simplement finir avec elle, puisque nous avons le grand honneur d'avoir Jean Madiran, qui vient de consacrer un livre, une civilisation blessée au cœur, à la racine de la crise de la civilisation occidentale, donc il était indispensable que nous ayons sa contribution. Il viendra donc parler de ce thème, de la crise de la civilisation occidentale et de la crise de la piété filiale, qui est le cœur de son livre. Moi-même, je ferai une conférence où j'essaierai, j'espère, de tirer des leçons politiques pour aujourd'hui de la fin de l'Empire romain. Alors c'est un sujet un petit peu ambitieux que j'ai accepté par mégarde et dont je me repens tous les jours actuellement. Mais donc je vais essayer de venir à bout. C'est quand même un des grands, un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire, cette civilisation qui paraissait faite pour durer éternellement et qui, alors même qu'elle venait de se convertir au christianisme et que providentiellement on pouvait penser qu'elle allait propager la civilisation chrétienne, et bien qui s'est effondrée brutalement. Je crois que face au spectacle que donne notre civilisation actuellement, il y a quand même des leçons à essayer de tirer de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis enfin, Jean-Pierre Maugendre essaiera de tirer une conclusion beaucoup plus optimiste, essaiera de redonner le moral aux gens après que je les ai démoralisés avec cet exemple.
Mais il y a aussi des activités qu'il faut sur lesquelles je voudrais revenir, ces activités ludique.
Mais voilà, c'est-à-dire que en fait, il y a deux après-midi où on permet aux gens de souffler, parce que comme vous voyez, le programme est un petit peu dense. Et c'est pas que les conférences soient compliquées, je crois que c'est accessible à tout le monde. Hein, nous essayons d'avoir un public qui va. Bon, c'est sûr qu'en dessous de 15 ans, ils ont du mal à suivre. Mais
les
15-25 ans sont le cœur de notre cible, puisque ce qu'il faut former, c'est des militants pour demain. C'est pas des militants pour hier qui sont déjà formés. mais nous sommes ouverts à tous les âges, nous avons des familles, nous avons des gens de tous les âges, mais évidemment, c'est vrai que c'est les 16-30 ans que nous cherchons à former et que nous cherchons à sensibiliser au combat de demain. Et donc, il y a deux après-midi qui sont un petit peu récréatives, une après-midi qui est un rallye dans la région, un rallye historique dans la région, et puis une deuxième après-midi qui est plus sportive, qui est une série d'activités sportives avec des équipes concurrentes qui font du tir à l'arc, de l'équitation et que sais-je, et qui se termine par un spectacle plus ou moins improvisé le soir par les équipes concurrentes, mais de façon, nous prévoyons chaque fois le pire, parce que l'improvisation c'est la pire des choses, et jusqu'à maintenant nous l'avons évité, donc oui. Chaque année ces spectacles ont été assez amusants. Vous parliez de la fausse émission de Radio Courtoisie, il y a eu des faux journaux de TF1, il y a eu beaucoup de spectacles de toutes sortes qui ont été improvisés par ces équipes de jeunes pour cette veillée qui est en général assez amusante et assez gaie, qui est un bon moment. Nous essayons de ne pas faire simplement une université savante, nous essayons de créer une amitié entre les gens qui partagent les mêmes idéaux, parce qu'il n'y a pas de militantisme sans amitié. Le militantisme, c'est la chose la plus assommante qui soit, c'est une chose qu'on fait par devoir, si elle n'est pas portée par une amitié réciproque. Donc nous essayons de motiver les gens au combat, mais en même temps de leur montrer que l'autre versant de ce combat, eh bien c'est l'amitié profonde qui peut se manifester entre gens qui sont animés par le même idéal.
Et puis il y a une chose aussi dont on parle jamais, ou dont on parle toujours plutôt là-bas, c'est la table. Parce que ou c'est formidable, ou c'est moyen, et il y a même eu une année où c'était, disons le mot...
Non, je vous trouve très très injuste. C'est en général très bien. Il y a eu une année catastrophique qui a été une des années les plus gaies.
Oui, c'est
comme au service militaire.
Ça
a fait un sujet de conversation et puis il y a une espèce de solidarité dans l'épreuve.
C'est-à-dire que chaque repas, on se demandait comment ils allaient faire pour faire le suivant pire.
C'est-à-dire que la providence qui avait lié, c'est que malheureusement, la personne qui nous recevait est morte un mois plus tard.
Peut-être qu'il
avait
trop mangé
sa propre cuisine.
Mais. Vous entendez tout à l'heure dire que vous alliez traiter le sujet de la décadence de Rome, mais c'est un vaste sujet, et moi il m'arrive souvent d'en parler dans les dîners débats ou dans les discours que je fais, et surtout j'en parlais quand j'avais mon mouvement de cadets qui a été dissous par la ministre communiste, comme tout le monde le sait. Mais ce qui me frappe quand je parle de ça, et ce qui me frappait quand je parlais de cela, c'est que je pense que les Romains ne savaient pas qu'ils allaient vers la décadence, tandis que nous le savons, parce que la décadence est organisée, et que les télés, les radios en remettent tous les jours, un peu plus. Et même dans l'actualité journalière, on s'aperçoit que c'est la décadence qui est organisée, quoi. L'État ne peut prendre aucune décision. La loi ne peut jamais être appliquée sans que Tartemolle, machin ou autre, interviennent et avec des grandes raisons disent que tout ça, ça ne peut pas aller. Et j'étais sur la route hier, tous les gens qui me lisent ou qui m'écoutent, sauf que j'écoute la radio sur la route, j'ai même un petit carnet, je note de temps en temps
en conduisant.
Oui, mais enfin, je fais attention,
Non, mais c'est une question.
Non, c'est l'heure que je marque. C'est l'heure. Parce que c'est très important de dire tel jour à telle heure. Mais hier, j'entendais une discussion au sujet du voile islamique et de la présence de l'islam. Eh bien, au bout de 20 minutes de route et de cette discussion, eh bien, j'avais compris que pour que tout ça se passe bien, eh bien, il fallait qu'il n'y ait plus de chrétiens en France, quoi. La France fille aînée de l'Église, la France une terre chrétienne. Bon, mais voilà, pour que chacun puisse faire ce qu'il veut, eh bien nous, il va falloir qu'on s'écrase. Il faut que les catholiques rentrent à la niche, quoi. Plus de croix, plus rien. Mais pourquoi plus de croix? C'est notre croix, c'est notre religion, c'est notre terre. Eh bien, c'est ce qu'ils ont décidé.
Voilà, est-ce que je peux en mettre une couche? J'écoutais la radio, moi j'avais rien de mieux à faire hier, entre 13 et 14 heures, que d'écouter France Inter. Et j'ai entendu un monsieur qui venait vendre son livre qui s'intitule « Femme de prêtre ». Il était très véhément. Oui. C'est-à-dire qu'il a fait un exposé d'une extrême violence pour dire l'Église catholique arriérée impose un dogme. Il a reconnu 5 minutes après que c'était pas un dogme, mais peu importe. Le célibat des prêtres, c'est un scandale. Il faut y mettre bon ordre, etc., etc. Il avait le renfort de la présidente d'une association de femmes de prêtres que j'ai écouté attentivement et avec une certaine compassion pendant les 5 minutes où elle a expliqué combien elle était malheureuse d'être une femme clandestine, de ne pas pouvoir mettre les pieds sur le lieu de travail de son mari, etc. Et puis au bout d'un un moment, elle a fini par dire, après avoir fini d'expliquer qu'il se cachait, elle a fini par dire, avec sa voix a changé et avec une malignité audible, elle a commencé à dire, oui, ses collègues croient qu'il a toujours sa petite auréole, sa petite pureté, mais non. Et j'ai entendu un commun ricanement diabolique. Je précise une fois de plus, aucun auditeur ne le saurait pas encore, que je n'ai pas la foi, que je suis athée, mais que je suis peut-être presque autant que Roger Hollande, inquiet et scandalisé de voir que, après lui avoir retiré tout pouvoir temporel, maintenant il semble qu'on veuille détruire la religion traditionnelle de la France.
Mais l'autre soir, je zappe beaucoup, moi comme nous tous, on en a marre, tant que je tombe sur une émission où je vois une jeune fille assez ouverte, assez mignonne, qui annonce qu'elle allait rentrer dans les ordres et tout ça. Bon, alors... j'écoute, j'arrête, je zappe plus, je reste là. Et j'écoute ce que disait cette fille, hein, était assez intéressant, elle devait rentrer dans les ordres quelques jours après. Et le gars lui dit, vous êtes contente, je pense que tout va aller bien. Et cette fille qui va rentrer en religion catholique dit, Inch'Allah. Non, mais c'était à la télé, c'était sur la Lune. Inch'Allah, elle va rentrer dans les ordres, Inch'Allah. Mais on croit rêver, quoi. Non, mais on croit ça rêver. C'est... Et je t'ai pas vu, il y a 8 jours.
Je crois que le signe le plus fort de la décadence aujourd'hui, en dehors des trucs provisuels comme la Gay Pride, tiens, à ce propos, un auditeur me passe un message en me disant que la Gay Pride, c'est le maire de Paris, c'est Bertrand du Déclin. J'ai dit ça, non? Et en dehors de ce genre de manifestations trop visibles, il y a des petits détails, notamment la formidable confusion mentale qui s'installe en France, en Occident, je crois. Et en France, en tout cas, c'est très frappant. Il y a quelques jours, j'écoutais une conversation à propos d'une décision qui a été, enfin, d'une mesure qui a été prise pour régler le problème de la pollution en cas de canicule. Et alors on dit cette mesure consiste à demander aux Parisiens de rouler moins, de pas prendre leur voiture et de rouler à moins de diminuer leur vitesse de 20 km/h. Et alors le gars qui avait annoncé cette mesure, le responsable de la sécurité routière ou de je ne sais quel office ministériel ou public, disait, et bien entendu on fait confiance, vous savez, parce que le journaliste disait, mais enfin, vous annoncez une mesure, vous demandez aux Parisiens, les Parisiens font ce qu'ils voudront. Non, il ne faut pas être, il ne faut pas du tout avoir cette attitude sceptique à l'égard du civisme des Parisiens. Il y a un réel civisme chez les Parisiens, répondait le fonctionnaire, et nous savons bien que les Parisiens sont suffisamment intelligents pour savoir qu'il faut éviter de prendre sa voiture ou réduire sa vitesse quand... Donc il n'est pas utile de prendre des mesures de coercition, on peut s'appuyer sur le civisme et le bon sens des Parisiens. Et 2 minutes après, on entendait une nouvelle mesure dans le cadre de la violence routière. On limite la vitesse. Alors, tout dépassement de vitesse sera maintenant considéré comme un délit grave ou avoir un crime. Et si on roule à 150 km/h sur une route à 130, on risquera jusqu'à 4 ans de prison. Donc, du même élan, on vous explique qu'on fait confiance au civisme des gens pour ne pas prendre la voiture quand il fait chaud, mais on brandit la menace de la prison pour les empêcher de dépasser la vitesse maximum de 20 km/h sur les autoroutes. Si les gens ne comprennent pas quand ils entendent ce discours qu'on se fout carrément de leur gueule, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Il y a un discours d'une incohérence totale là-dedans. C'est-à-dire qu'on leur dit blanc, une minute après on leur dit noir, ils doivent avaler les deux couleurs en disant merci.
Tu sais pourquoi ? Parce que tu es un peu comme nous tous. On est encore des Français qui écoute ce qui se dit. Mais pour les trois quarts des Français, c'est un bruit de fond. Ouais. Un bruit de fond, les gens s'en foutent. C'est un bruit de fond, parce que des contradictions comme ça, t'en as toutes les heures. Toutes les heures, t'entends des gens qui viennent dire le contraire de
J'ai un autre exemple que je vais vous donner.
Si on roule à 10 km l'heure dans Paris, dans les embouteillages, et qu'on doit faire moins 20, ça équivaut à faire de la marche arrière.
Ben oui, mais à propos d'incohérence, il y en a une autre qui est très jolie. C'est, je rappelle que Delanoë, donc Bertrand du Déclin, a fait débaptiser la rue à Alexis Carrel.
Oui.
Et il a expliqué que c'était parce que il n'était pas décent que quelqu'un qui avait servi le régime de Vichy ait une rue dans Paris. Bon. Et le lendemain, il a annoncé que un quai de la Seine serait baptisé quai François Mitterrand. Ouais. Or, pour autant que je me souvienne, François, ça c'est... c'est mon ami Henri Paul qui me confirme.
Mais vous savez bien, Serge, pendant que vous toussez, que Mitterrand a reçu la Francisque voilà. au titre de la Résistance.
Alors, il faut rappeler aux jeunes auditeurs que Mitterrand a reçu la Francisque, qui était la décoration créée par le régime de Vichy pour les fonctionnaires de Vichy qui rendaient service au régime de Vichy et qui faisaient le serment suivant. Je fais don de ma personne au maréchal Pétain, comme il a fait don de sa personne à la France. Je m'engage à le servir et à rester fidèle à son œuvre et à sa personne. C'est un serment que Mitterrand a prêté, qu'il a signé et qui lui a valu le brevet 2202 daté du 16 août 43, c'est-à-dire il avait quand même eu le temps de réfléchir un moment à la réalité de l'occupation et du régime de Vichy avant 16 août 43. Bon, le gars qui aurait fait ce serment le 1er juin 40, on pouvait se dire, dans l'urgence, il s'est dit, il faut sauver les meubles, faisons toujours serment de fidélité au maréchal Pétain. Mais en août 43, il avait eu le temps de voir venir.
Et il fallait, donc, je voudrais dire deux choses. Avoir eu un passé digne des pensées du maréchal Pétain, parce qu'il fallait un parrain. Voilà. Il fallait un parrain. Il y a eu presque moins de Francisques distribués que de Croix de la Libération. Et on peut dire que les Croix de la Libération, il n'y en a pas eu tellement quand même de distribués.
Voilà, donc il faut quand même rendre hommage à Bertrand du Déclin, d'avoir su, en quelque sorte, reconnaître la valeur des fonctionnaires de Vichy. Enfin, écoutez, c'est vrai qu'on les a couverts d'opprobre depuis 60 ans maintenant. Il faut leur rendre la justice qui leur est due. Et bien, grâce au quai Mitterrand, c'est un peu ce qui va se passer.
Mais quand les gars sont venus au château, hein, dans l'ensemble assez correct, mais ils étaient 16, hein, des représentants des différents services de la préfecture. Et ils cherchaient ce qu'ils ne pouvaient pas trouver, ce qui n'existait pas. Ils cherchaient le nazisme, le fascisme, ben, il n'y en avait pas au château. Bon. Bon, c'était un mouvement...
Peut-être enterré dans les cadres.
Mon mouvement était un mouvement de scout à l'ancienne. L'honneur, la patrie, papa, maman, le respect du copain, y compris le petit noir qui était là, ou le petit arabe qui faisait partie des cadets comme les autres. Et le gars me dit, il fouillait partout. Je lui dis, mais vous pouvez... Qu'est-ce que vous fouillez là? Vous cherchez quoi, là, Adolphe? Vous pensez qu'Adolphe, il est planqué dans le placard, là? Il dit, moi, monsieur, je fais mon travail. Ben, je dis, exactement comme Papon. Vous faites comme Papon. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Oui, je suis fonctionnaire de l'État.
Comme
Papon, vous faites votre travail. Ah, vous exagérez un peu. Non, vous faites votre travail exactement comme Papon qui était fonctionnaire.
Donc pour ça, Blondel a de la chance. Il a donné son nom à une rue il y a bien longtemps. Fréquenté d'ailleurs par d'accord de jeunes femmes.
Ah, je ne connais pas ce genre d'adresse.
Moi non plus, mais...
Le même ami m'envoie un message. Il me dit qu'il a récemment été pris par un taxi arabe qui venait d'accomplir son service militaire en Algérie et qui lui disait que dans son bataillon, l'armée algérienne avait regroupé les beurs et que les mecs parlaient en français entre eux et ils se reconnaissaient à leur accent français.
Ouais. Toi, t'es de Marseille. Ouais, moi, je suis dans Marseille.
Voilà. C'est fabuleux quand même, non? Donc, j'entendais hier sur Radio FM, Radio Beurre FM, un chroniqueur, enfin un éditorialiste, pas mal d'ailleurs, avec l'espèce de côté un peu, comment dirais-je, l'espèce de don oratoire des orientaux, un peu la tchatch, oui, mais la tchatch un peu orientale, comme ça, oui, c'est une espèce de mélange de poésie et de délire, c'est pas mal du tout son truc, mais il a littéralement vomi de haine sur la France pendant 10 minutes, avec beaucoup de talent, et il disait c'est déjà difficile d'être algérien, mais c'est carrément atroce d'être français, et la France néocoloniale, alors je me disais en écoutant ça, mais putain, mais pourquoi il est en France, pourquoi il rentre pas chez lui? Ça m'a fait penser à la fameuse histoire belge, le type qui descend à la gare du Nord, il sort de la gare du Nord, il monte dans un taxi après avoir regardé le paysage et il dit au taxi, dites-moi, monsieur, ôtez-moi d'un doute. La guerre d'Algérie, vous l'avez bien perdue, oui. Ben, bien sûr, dit le taxi. Mais pourquoi est-ce que vous gardez les prisonniers, alors?
Encore un qui mord la main, qui lui tend le micro, puisqu'il faut ajouter ce détail qu'il s'exprime sur une fréquence française.
Oui.
Hier, je tombais sur des copains, justement, parce qu'on allait. On s'est retrouvés parce que Biagi a eu la Grande Croix de la Légion d'honneur hier soir, et je tombais sur des copains d'Algérie qui étaient comme moi atterrés de la tournure que prend l'histoire de la guerre d'Algérie en France. Maintenant, c'est officiel, quoi. On était que des assassins. On a été là-bas. C'est nous qui sommes partis sans que la guerre soit déclarée.
Mais c'est l'extrême droite.
Comme en Indochine, c'est nous qui sommes partis. Ouais. Allez, on va aller casser du Vietnamien. Après, on est parti casser de l'Arabe. Hein? C'était une colonie. On violait toutes les femmes. On ne faisait que ça.
Il y avait un certain mérite, d'ailleurs.
Je sais pas où tout ça va déboucher, mais ça, parce que tu parles de ces jeunes qui vont faire le service en Algérie. Il n'y a plus de service militaire en France. Quand les gars vont faire le service militaire en Algérie, mais pourquoi vont-ils faire le service militaire en Algérie? Parce que beaucoup de jeunes juifs vont faire le service militaire en Israël. Là, où est-ce que ça va s'arrêter? Où est-ce que ça va s'arrêter?
Dans un cimetière, probablement.
Oui.
Alors, n'engageons pas Michel de Gégère sur ces discussions politiques qui sortent de sa compétence. Ramenons-le à son université d'été pour demander maintenant les détails pratiques.
Tout ça n'est pas inintéressant.
Non, c'est pas inintéressant. Non, on est au cœur du sujet.
Ça peut peut-être le former un petit peu politiquement, mais...
On est au cœur du sujet. Et donc, les détails pratiques, donc les dates... C'est du dimanche 13 au mercredi 16 juillet 2003.
C'est un bon moyen d'échapper au 14 juillet à Paris, quand même, je vous le signale, pour les Parisiens.
C'est donc à Villepreux, Grand Maison, domaine de Grand Maison à Villepreux, c'est à 20 km à l'ouest de Paris, c'est à côté de Versailles. Il y a un certain nombre de tarifs assez étudiés, je crois qu'on a essayé de faire les choses le moins cher possible. On ne gagne pas d'argent là-dessus parce qu'on essaye de faire en sorte que le maximum de gens puissent venir. Pour 4 jours, il y a des prix qui sont étagés entre 95 et 130 euros, suivant les formules. Pour les jeunes, il y a moyen de coucher sur place dans une grange. Pour les familles qui voudraient venir en camping-car, il y a un parking pour ça. Il y a surtout une garderie extrêmement bien faite. On a fait depuis 2 ans un énorme effort sur la garderie parce que notre objectif, c'est que les familles puissent venir et que les familles avec de jeunes enfants ne soient pas empêchées de venir, notamment les mères de famille, car c'était un de nos objectifs. Beaucoup de mères de famille sont des jeunes femmes qui ont fait des études et puis qui, après, toute l'année, s'occupent de leurs enfants, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de notre avenir, mais c'est certainement très gratifiant, mais quelquefois sur le plan intellectuel un peu monotone, et cette université d'été est pour eux, pour elles, une façon de retrouver des occasions d'approfondissement intellectuel qui sont en général très appréciées. Donc, on a fait un très gros effort sur la garderie, il y a des garderies par âge, avec beaucoup d'activités pour les enfants, et actuellement les jeunes enfants qui viennent sont ravis et passe 4 jours très agréables. Il y a bien entendu la messe tous les jours, la messe selon le rite traditionnel. L'université s'ouvre d'ailleurs le dimanche matin, bien entendu, par une grand messe qui est célébrée à Grand Maison. Que dire d'autre? Bien, il y a toutes sortes de petites activités culturelles, d'ateliers, de choses plus ou moins festives. Je pense que c'est honnêtement ces 4 jours de vacances intelligentes et agréables et certainement utiles pour l'avenir.
Que dire d'autre? Où l'on peut vous joindre, par exemple?
Alors, il faut s'adresser donc à Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130 Issy-les-Moulineaux. Le numéro de téléphone est le 01 46 62 97 04. Je répète, 01 46 62 97 04. Il y a un fax, le 01 46 62 95 19.
Et c'est la même adresse pour se procurer votre livre « Pourquoi nous ne demandons pas pardon ?» 29 euros pour compris pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Quelle adresse déjà?
L'adresse est 89 rue Pierre Brossolette. J'ai un petit peu de mal à me la mettre dans la tête. 89 rue Pierre Brossolette, 92 130, ici les Moulineaux. Je vous remercie infiniment.
Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent intéresser?
Oui. Peut-on n'assister qu'à une ou deux journées? Si oui, quel en est le tarif?
Alors la réponse est oui, c'est parce que nous cherchons, parce que l'université forme un ensemble, c'est une espèce de, il y a un cursus qui est un petit peu étudié, on essaye, et donc et puis d'autre part il y a une ambiance qui ne peut se créer que si disons l'immense majorité des gens font les 4 jours et restent les 4 jours. Maintenant il est évident qu'il y a des gens qui ont des problèmes de vacances, des problèmes de timing, etc., et qu'on étudie les choses cas par cas, qu'il y a des tarifs dégressifs pour les gens qui pourraient ne venir que le week-end ou qu'une journée.
Trouve-t-on à la librairie France Livre les actes du colloque de 1999?
Alors, il ne faut pas s'y ruer parce que les actes sont parus aujourd'hui, c'est-à-dire que nous les recevons aujourd'hui de chez l'imprimeur. Donc, je pense qu'ils seront livrés dans les librairies qui voudront bien les prendre, c'est-à-dire essentiellement, je pense, France Livre, effectivement, et Duquesne Diffusion. Mais je pense à la semaine
aussi à mes racines et.
Ah, mais toutes les librairies qui voudront nous en, qui voudront nous en commander sont évidemment bienvenues, mais je pense que ces livres seront disponibles en librairie que la semaine prochaine.
Je peux vous lire les autres messages qui n'ont pas un rapport direct.
J'allais vous le demander, cher ami.
Merci, monsieur le Becquet.
Bien urbain.
Hein. Oh, dites donc, c'est bien ça. C'est de l'avis de Ryan que.
On le pose sur la table, on trie et on.
Il s'agit de la vie de Brian et non pas sacré Graal.
Ah, c'est la vie de Brian, oui, c'est vrai. Bien sûr.
C'est un jeu, vous n'avez pas dit, vous avez dit Monty Python, oui, le groupe, vous n'avez pas cité le titre sacré Graal.
Si, j'ai dit la sacré Graal. Ah, je me fustige
lorsque
abondamment.
Lorsque Christ parle, les gens au fond de l'Assemblée entendent de moins en moins.
Voilà, c'est ça.
Et c'est tout sur ce sujet. Alors, cette émission est la suite de celle de midi dirigée par Monsieur Marin.
Vous voyez, ben ça ne m'étonne pas d'abord parce
Marin
que...
Marin Becquetch, même combat.
Ben oui, Marin est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a du courage, du talent, de la générosité, enfin plein de choses. Si on me dit que je fais la suite de son émission, je suis ravi.
J'en ai assez d'entendre parler de la colonisation dans les autres radios. Des mauvais colonisateurs, bien entendu. Bravo pour votre émission.
Voilà. Faites comme si vous aviez un micro.
Messieurs, mais ça, je la vois qui passe. Messieurs, étiez-vous invités à la grande partie organisée par les frères dont nous avons vu les images et commentaires complaisants à la télévision? Télévision
non,
rime
mais...
avec franc-maçon.
Je publierai dans le prochain numéro, je publie dans le numéro du Libre Journal qui paraît demain, l'intégralité du discours de Chirac qui est absolument renversant, le discours qu'il a prononcé à cette occasion.
À la lecture du Figmag sur la franc-maçonnerie, on dit que beaucoup de grands restaurateurs avaient des rapports étroits avec la franc-maçonnerie.
Je t'aguerre, quelle loge, quel atelier, allez vite.
En ce qui me concerne, je n'en connais pas. C'est probablement vrai.
Mais pourtant, tu as un frère.
Oui.
Voilà.
Mais qui est mécanicien.
Oui.
Il fait la coupe des vis, il joue avec des boulons.
Étant donné l'attitude récente du patron du Figaro, je ne renouvellerai pas mon abonnement et bonne nouvelle à ce journal, mais en contrepartie, je m'abonne au Libre Journal.
Oui, je ne vois pas pourquoi on est obligé de se désabonner du Figaro.
Mais c'est parce que c'est pour les sous.
Bah, oui, il faut dire à cet auditeur d'envoyer son chèque de 110 euros. À SDB, 4 places France Liszt, 75-010 Paris.
Ouais. Voilà.
Alors moi, je m'abonnerai au Figaro, puisque c'est comme ça. Voilà.
À propos de la place France Liszt.
Il n'y a peut-être pas de fricassé.
Oh là là.
Ça, c'est vraiment une blague de cuisinier. Ça.
À propos de la place France Liszt, si elle était rebaptisée place François Mitterrand, le Libre Journal de la France courtoise déménagerait-il?
Non, je prendrais une boîte postale. Oui, alors, boîte postale, ça fait Benito Pétain.
Je suis gros et roux, nous dit cet auditeur, et j'ai constaté l'absence totale de gros roux dans les publicités, portant notamment sur les produits de beauté. C'est un scandale.
Oui, c'est vrai.
Mais pourtant, nous avons maintenant un ange gardien pour les rouquins. Il s'appelle Oliver, parce que l'ange Oliver protège les roux.
Je vous signale qu'il est quand même...
Ah, mais de la poésie, bonsoir. Je le baillonne pas trop, mais je tape dessus.
Si on les lâche,
non, il est quand même meilleur cuisinier. Hein, Dieu merci.
Que pensez-vous de la publicité dans laquelle une jeune fille enfonce dans la bouche de son père une boîte de médicaments pour lui apprendre ce que sont les médicaments génériques? Et après, on trouve que les jeunes n'ont plus de respect. Ça, c'est ben vrai. Que peut-on faire, monsieur Olyndre, de concret pour expliquer l'état de satanisation d'une grande partie de la jeunesse?
Je crois que c'est très difficile dans la mesure où tous les moyens sont entre les mains de l'État. Et dernièrement, quand j'entendais des professeurs, d'ailleurs pendant la grève, on a quand même entendu et vu pas mal de choses. Un matin, ce professeur syndicaliste, ou le gars de la télé, on ne sait pourquoi d'ailleurs, lui posait des questions normales. Hein. Le gars lui dit, mais enfin, vous, les examens et les jeunes. Alors, il dit, bah, tant pis pour eux. Alors,
ils tout perdront une année.
Tant pis pour eux. Il est bien sûr et certain que tous ces instituteurs, tous ces profs et tout ça, s'il leur arrive, ils l'ont bien cherché. Hein. Et l'État a bien fait tout ce qu'il fallait. Quand M. Harlem Désir allait dans les collèges, quand M. Drey allait dans les collèges, quand Faudécilla allait dans les collèges, hein, attaquer toutes les valeurs de la France et tout ça, parce qu'en attaquant systématiquement le Front National et les valeurs défendues par Le Pen et le Front National, ça voulait dire aux autres que toutes ces valeurs, ça n'avait pas un clou, ça ne valait pas un clou. Donc aujourd'hui, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Et il est quand même agréable de voir de temps en temps que des jeunes ne sont pas totalement vérolés, qu'ils ne sont pas tous vérolés. Mais notre ami parlait des émissions de télévision, nous parlions de la presse, nous parlions de la radio. Tout est fait pour que la jeunesse parte à la dérive.
Y compris, là, récemment, on publie un article dans le prochain livre journal sur l'histoire de l'exercice de mathématiques de la série C, Bac C. Bac S, pardon. Moi, j'étais absolument nul en maths, mais vraiment une nullité pratiquement éblouissante. Eh bien, Claude Timmerman me téléphone et me dit, mais ce problème, moi, je l'ai résolu en 5 minutes au petit déjeuner en lisant. Je dis, bon, c'est pas possible. Envoyez-le-moi. Il m'a envoyé le problème. Moi, j'ai pas mis 5 minutes, j'ai mis 20 minutes. Mais c'est élémentaire. On nous a expliqué. Alors, on dit aux gosses, c'est de la géométrie spatiale, on n'a pas étudié la géométrie
spatiale. Est-ce que ça serait pas de la géométrie dans l'espace,
voilà,
par hasard?
C'est ça, c'est exactement ça. La géométrie spatiale, de notre temps, on appelait ça la géométrie dans l'espace. Et alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Quel est le problème? C'est simplement, il faut, pour le résoudre, savoir qu'un triangle isocèle un triangle équilatéral a trois côtés égaux, l'isocèle a deux côtés égaux, que l'angle droit s'inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est l'hypoténuse.
Qu'est-ce qu'il est fort.
Enfin, c'est tout ce qu'on a appris quand on avait 11 ans.
Ah oui, exactement.
Il y a eu du changement, Serge, depuis. Nous avons 40% d'illettrés en France.
Une fois qu'on a compris ça, si on connaît la formule du volume de la pyramide, qui est un tiers de HB, c'est-à-dire un tiers de la hauteur par la base, et la surface du triangle, un demi de la hauteur par la base, on s'est réglé en 20 minutes pour un type comme moi qui suis vraiment un taré en maths. Et là, on a des élèves qui arrivent au bac S, qui ne peuvent pas répondre, ce qui est déjà grave, mais alors où ça devient totalement ahurissant, c'est quand les examinateurs disent, enfin les correcteurs disent, mais c'est un problème absolument impossible. Alors, Timmerman a interrogé une de ses amies qui est à l'académie sur les raisons de cette catastrophe. Elle lui a dit, mais actuellement, on accepte comme admissible des candidats aux instituts de formation des professeurs qui obtiennent 3,5 sur 20 au concours d'entrée en mathématiques.
Nous, travailleurs manuels, nous reconnaissons facilement quelqu'un qui sort de l'école, c'est celui qui sait rien foutre.
C'est quand même pas bien que tous les gens.
Quand ils vont trop longtemps, ça finit par faire.
Tous les gens de ma génération faisaient leur vie avec le certificat d'études. Moi, je n'ai pour bagage que le certificat d'études. J'ai appris beaucoup de choses.
Oui, mais Ena et l'anagramme de Hahn.
J'ai appris beaucoup de choses après, mais je n'ai que le certificat d'études. Ça m'a quand même permis d'être écrivain reconnu dans des maisons, parce que ça me fait marrer quand j'entends tous ces loustiques-là qui parlent de leurs bouquins. Ben moi, j'ai quand même vendu des bouquins à 95 000, 120 000 exemplaires, 45 000 exemplaires, 35 000 exemplaires, 63 000 exemplaires, l'Asie en marche et tout ça, sans passer à la télé, sans passer à la radio. Mais il est bien sûr et certain que là aussi, c'est le travail des profs qui n'a pas été fait. Ah, tu connais l'histoire de l'autre qui parlait de Mireille d'Arc qui avait été fusillée à Orléans par la Dachreuil, tu crois ça?
Alors, revenons dans les choses sérieuses. Une auditrice nous dit que Dieu est le même pour tous, chrétiens, juifs et musulmans. Et la téléphoniste
ajoute... alors.
Et la téléphoniste ajoute, mais tout de même, pour les chrétiens catholiques, il est pourtant en trois personnes.
Ouais, non, mais tout ça, qu'est-ce que je suis désolé pour cette auditrice, mais c'est carabistouille. C'est, Dieu n'est pas le même pour tous, parce que Dieu, évidemment, Dieu, il est ce qu'il est. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment on le voit, et il est évident que tout le monde ne le voit pas de la même manière. Mais c'est un vieux truc, c'était, comment s'appelait ce grand vieux beau marcheur du désert, dont le nom ne me revient pas, là, qui a traversé le désert, qui est un personnage tout à fait fascinant. Et il disait, l'image de Dieu, c'est des hommes qui gravissent une dune, chacun sur un, par un côté de la dune.
Monroe,
voilà. Ou Monroe, je sais plus, en fait, peu importe. Ouais. Et il dit, c'est une belle image. Mais il y en a pour lesquels l'escalade est plus difficile que d'autres, et puis il y en a qui n'arrivent jamais au sommet. Donc cette idée que Dieu est le même pour tous, elle est tout simplement fausse.
Voilà. Il y a des fois de être odieux.
Et puis les satanistes, alors aussi, c'est pareil. Alors. Non, ça c'est deux claques. Là. Les satanistes, c'est pareil. Alors si Dieu est le même pour tous, c'est même pour les satanistes, c'est même pour les adorateurs de l'oignon. Alors on met un peu de bon Dieu dans la salade de tomates tous les soirs. Enfin, tout ça est grotesque.
Que pensez-vous des mouvements charismatiques qui se développent en France, genre Chemin Neuf? Vous n'en pensez rien?
Non, j'en pense rien, c'est pas ma tasse de thé, c'est tout.
Avez-vous lu la locution de Jacques Chirac?
Les multiplicateurs de boîtes de petits pois, j'ai du mal à avaler, mais pas les petits pois, mais les histoires.
Avez-vous lu la locution de Jacques Chirac face aux francs-maçons, reçue à l'Élysée, vous l'avez dit tout à l'heure?
Nous la publions.
C'est un monument d'allégeance qui donne la chair de poule, nous dit cette auditrice. Messieurs Olyndre et Goffman parlent de lobbies qui veulent détruire l'Église de l'extérieur. Il faudrait parler aussi de ceux qui la détruisent de l'intérieur.
C'est le même.
Pour la énième fois, il y a quelques jours, Jean-Paul II a insulté les catholiques croates en les traitant d'assassins et a fait repentance alors que personne ne lui demandait rien.
Et alors justement, répétons qu'il faut, pour comprendre cette situation, il faut lire le
livre est très intéressant.
Oui, et je crois que ce que dit cet auditeur n'est pas vrai. Il faut pas non plus, on peut pas dire n'importe quoi s'en tenir au titre du Monde, ne pas lire les discours et ensuite faire des commentaires outranciers. Le pape n'a pas insulté les catholiques trop croates. Il a dit qu'il fallait se réconcilier et que la réconciliation passait par le pardon mutuel. Je suis désolé, quand il fait ça, il fait son boulot. Il faut lire les textes. Et on a fait dire au pape beaucoup, beaucoup plus qu'il n'en a dit. Je ne dis pas que la démarche que le pape a lancée avec le grand examen de conscience qu'il a lancé pour le jubilé de l'an 2000 n'était pas une démarche à haut risque, peut-être une démarche imprudente, mais elle a été manipulée par un certain nombre de gauchistes, de commentateurs, d'informateurs religieux, d'évêques, de manipulateurs de tout poil, et on lui en a fait dire beaucoup plus qu'il n'en a dit, ce qui fait que maintenant, il suffit que le pape dise, ah, c'est bien regrettable, il y a beaucoup de pécheurs dans le monde, ce qui est quand même ce que disent les papes depuis que la papauté existe, pour qu'on dise, c'est inadmissible, le pape s'est encore prosterné.
Je me souviens, dans un de mes premiers bouquins, qui s'appelait Honneur ou décadence, j'avais écouté le discours du pape à la radio, et j'avais trouvé le discours le lendemain dans le journal. Donc j'ai gardé le discours du Saint-Père. Et quelques temps après, je recevais les journaux et j'ai vu les comptes rendus de cinq commentateurs qui avaient écouté le pape. Mais il n'y en avait pas un seul qui avait entendu la même chose et qui avait compris la même chose. Mais c'est devenu maintenant monnaie courante parce que quand c'était Mitterrand qui parlait à la télé ou maintenant quand c'est Chirac qui parle à la télé, eh bien il y a des commentateurs qui viennent après nous expliquer ce qu'a dit le président de la République parce qu'on est tellement crétin qu'on peut pas comprendre ce qu'a dit le président de la République. Alors on vient nous l'expliquer, mais c'est l'abrutissement généralisé. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que même nos amis ne croient pas qu'il y a une organisation qui mène tout ça. Ça n'est pas possible que le matin, à 7h ou à 8h, sur toutes les chaînes de radio ou de télévision, le même commentateur, enfin des commentateurs différents, font les mêmes commentaires en partant sur une base qui a été téléphonée.
Mais alors, il y a encore mieux que ça, parce que justement, là, je fais référence à ce livre, Pourquoi nous ne demandons pas pardon. Je raconte dans ce livre une manipulation qui est au-delà de cela. Il s'agit du document du Vatican sur la Shoah. C'est une histoire assez intéressante, c'est-à-dire que le document du Vatican sur la Shoah est publié, une date dont je n'ai pas le souvenir en tête, mais il est publié vers 17h, 18h. Le Monde, qui boucle à midi, ne peut pas avoir ce document, mais comme il arrive que le lendemain, en province, et qu'il est daté du lendemain, il ne peut pas non plus ne pas parler du document. Eh bien, Le Monde, titre, en une, éditorial, une page de commentaire, le document du Vatican reconnaît la responsabilité de l'Église dans la Shoah. C'est l'antisémitisme chrétien qui est à l'origine de l'antisémitisme nazi, et le pape demande un pardon spectaculaire, avec commentaire. Jamais le pape n'avait été aussi loin, etc. Il y en a une page de commentaire que je cite. À 17h, 18h, arrive le document sur la Shoah, où il n'y a rien de tout ça, où il y a le contraire, où le Vatican dit il n'y a rien de commun entre l'antijudaïsme des pères de l'Église, entre la méfiance entre l'Église et la synagogue, il n'y a rien de commun entre ça et l'antisémitisme nazi, qui est un antisémitisme païen, qui est éventuellement est issu des Lumières, mais qui en tout cas n'a strictement rien à voir avec le catholicisme. Et s'il y a un personnage, il y a certainement eu des chrétiens qui ne se sont pas bien comportés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu aussi des martyrs, il y a aussi des gens admirables qui ont aidé les Juifs, et par exemple un bon exemple de chrétien admirable qui a aidé les Juifs, c'est le pape Pie XII. Alors que Le Monde, dans l'édition dont je parle, expliquait que le pape avait fait repentance pour le silence de Pie XII, etc., etc. Eh bien, le lendemain, Le Monde n'écrit
pas... Laissez-moi deviner, ils démentissent en trois lignes.
Non, même pas. Ils ne démentent pas. Ils ne démentent pas parce que ils ajustent. Car, entre-temps, l'absence de repentance du pape suscite les protestations d'un certain nombre d'organisations juives qui disent mais ça va pas du tout, c'est pas ça qu'on attendait, etc. Eh bien, Le Monde titre les organisations juives sont déçues par la repentance du pape sur la Shoah, entre parenthèses notre édition d'hier. Effectivement, dans ce texte, les organisations juives notent que le pape ne dit pas ceci et que le pape ne dit pas cela. Mais à aucun moment on dit nous vous avons désinformé. Alors, il faut se mettre dans la tête du lecteur, qui en général ne lit que les titres, qui parcourt l'article, et il se dit qu'il aussi bien ne lit pas le journal du lendemain, qui peut-être ne lit d'ailleurs ni Le Monde ce jour-là, ni Le Monde le lendemain, mais écoute la télévision où les journaux de TF1, France 2, etc. sont faits avec Le Monde, et où le soir, je n'en ai pas le souvenir, je reconnais, mais il est très possible que des commentaires aient été faits en fonction de ce commentaire du Monde fait sur un texte auquel Le Monde n'avait pas accès. Ils ont fait jusqu'à leur éditorial pour commenter un texte dont ils n'avaient pas connaissance et qu'ils supposaient d'après leurs informateurs, etc. Eh bien, le type qui a écouté la télévision ou qui a jeté un coup d'œil sur le numéro du Monde, 5 ans après, il n'a jamais regardé le document du Vatican sur la Shoah et il est persuadé que Jean-Paul II a reconnu la responsabilité de l'Église dans la Shoah. Alors quand après Jean-Paul II,
c'est dangereux, même.
Ce qui est terrible, c'est quand après Jean-Paul II fait une déclaration, excusez-moi, mais anodine, qui est de dire, au fond, pour résoudre les conflits, il faudrait se pardonner mutuellement les crimes qu'on a commis les uns contre les autres. Et c'est vrai. Il est vrai que dans l'histoire de l'Église, l'Église, elle est sans péché, mais elle n'est pas sans pécheur. Et que dans l'histoire de l'Église, il y a des chrétiens qui, à certains moments, ne se sont pas bien comportés. C'est pas un crime de le dire. Ça ne porte pas atteinte à la sainteté de l'Église. Simplement, ces chrétiens se sont mal comportés en contradiction avec les principes de l'Église, avec les principes de l'Évangile. Bien. Et quand le pape a une déclaration anodine pour dire, bah, écoutez, il faut regretter que certains chrétiens n'aient pas été dignes de la sainteté de l'Église et de l'enseignement du Christ, on dit, ah ben voilà, c'est comme l'autre jour sur la Shoah, et il en remet encore. Et c'est ce que fait notre auditeur.
Cela dit,
c'est là où cette opération de manipulation doit être démontée.
L'opération du Monde dont vous nous parlez là est très dangereuse, parce qu'imaginez le gars qui entend le lundi, information, le pape fait repentance et reconnaît la responsabilité de l'Église dans la Shoah et accuse ses prédécesseurs et reproche par exemple à Pie XII son silence, etc. Et le lendemain, il voit Le Monde, où il dit les organisations juives sont déçues par la repentance de Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il dit le gars? Il dit mais les juifs sont jamais contents.
Voilà. Il dit non seulement on ne cesse de se prosterner, mais ils en veulent encore. C'est inévitable.
Lorsque j'étais à Paris Match, je suis quand même resté quelques années, je faisais en sorte d'être là la nuit où paraissait mon article.
Ah oui,
d'abord pour le corriger, mais surtout pour voir les titres, les sous-titres et les légendes de photos. Parce que les gens qui ouvrent un journal comme Paris Match, ils regardent les photos. ils regardent les titres, les sous-titres, ils passent, et ensuite ils relisent, ils lisent les légendes des photos. Eh bien, s'il y a un ou deux trotskistes, et ils sont là, ils sont à ces postes-là, qui te foutent n'importe quoi comme légende, ben le gars, il a de ton article, où tu as mis toute ton âme, toute ta foi, où tu as rapporté la vérité de quelque part, le gars, en une ligne, en une légende, il fout ton article, il fout totalement ton article en l'air, et il gauchit ton article.
Permettez-moi d'en donner un exemple très frappant. Dans le livre dont on parle partout, là, sur l'affaire Rosenberg, où une fois de plus, on démontre tranquillement que le Rosenberg était coupable, on démolit un livre entier, cette fois, et non pas un article, un secrétaire d'édition, cette fois, et non pas de rédaction, ne légende pas, annote la couverture de ce commentaire, les Rosenberg tués pour délit d'opinion. Et vraisemblablement, il sait ce qu'il en est. Il connaît le contenu du livre, mais il choisit de le dénaturer. Alors, je terminerai en disant, sur cette manœuvre d'éditeur, comme sur Le Monde, en soulignant le caractère totalitaire de ces procédés. Parce que ces gens-là se présentent en militants de la résistance d'il y a 50 ans, en anti-nazis, nous traitent de tous les noms, et notamment de totalitaires et de nazis. Mais ce sont eux qui emploient des procédés totalitaires. Ce que vient de décrire Michel de Gégère, c'est un procédé totalitaire. C'est Goebbels qui a inventé ça. Plus c'est gros, plus ça passe. Et cette façon de nier l'évidence et de mentir avec un tel aplomb, c'est typiquement totalitaire.
Alors, enfin, nous sommes quand même en 2003. On n'a jamais autant parlé de la guerre qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant parlé de Pétain qu'aujourd'hui. On n'a jamais parlé autant de la résistance. Ils étaient tous résistants. Mais il n'y avait que des résistants. Mais enfin, avec tous ces résistants, comment les Boches ont pu rester là pendant 5 ans?
Ben, c'est ça.
On peut quand même se poser la question. On peut se poser la question.
Ils étaient bien, peut-être.
Pourquoi ? C'est parce que les gens qui ont vraiment résisté, ils la ferment. Ils se taisent. Ils ont un peu honte de toutes les conneries que racontent des gens qui n'ont rien fait, sinon du marché noir. Alors, parce que tout le monde n'a pas résisté dans ce pays.
C'est comme les vrais et les faux nobles. Moi, j'ai des amis qui ont des noms superbes et des noms très anciens et qui se font appeler Dupont tout court, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans la cour des gens qui ont des noblesses, des quartiers de noblesse de fantaisie et qui les mettent en avant.
Mais là, dans le dernier livre que j'ai écrit, bon, qui traite d'Israël et de la Palestine, je me suis cru obligé, j'ai resitué l'ambiance de la guerre. J'étais quand même en âge de me rappeler, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, de me rappeler. Bon, ben, il est bien sûr et certain que ce qu'on raconte aujourd'hui sur la fin de la guerre, l'entrée des Allemands dans Paris, tout ça, c'est bidon. Tout est bidon. Tout est bidon. Je pense que l'émission va s'arrêter. Si on peut reprendre, là-dessus,
non, il n'y a pas. Non, pas. C'est pas toi. Bon. J'essaie de. Voilà.
Moi, je raconte dans ce bouquin. Ma grand-mère était concierge. J'étais concierge à côté de l'avenue Kléber, dans une petite impasse qui s'appelait l'impasse Longchamp. Pas la rue Longchamp, l'impasse Longchamp. Et moi, quand je suis arrivé, on était en... Comment ? En province, hein, réfugiés comme la moitié des Français. On était donc en zone sud, en zone non occupée. Et on oublie quand même de dire que des millions de Français qui étaient en zone libre sont remontés par des milliers de trains en plusieurs semaines et même plusieurs mois sur Paris et se sont réinstallés, que tout a repris immédiatement. Alors on dit, mais alors toi t'es pro-Bosch ? Non, dans ma famille on était anti-Bosch. On a toujours été anti-Bosch. Mon père était anti-Bosch, ma mère était anti-Bosch, toute ma famille était anti-Bosch et moi j'étais anti-Bosch parce qu'ils occupaient mon pays et que notre armée dans laquelle je croyais, comme tous les gosses de l'époque, avait été battue. Mais là j'étais avenue Kléber. À 30 mètres de l'avenue Kléber, dans cette petite loge de ma grand-mère. Mon père était prisonnier. Ma mère travaillait pour nous nourrir. Et j'allais donc sur l'avenue Kléber à 30 mètres, hein. Et là, il y avait à longueur de journée des Allemands qui passaient. Il y avait des autocars de toutes les unités allemandes qui venaient pour visiter Paris, pour voir la Tour Eiffel, pour voir tout ça. Et les gens dans la rue disaient, mais je les entends encore comme si c'était hier. J'ai, ah, ce qu'ils sont beaux, ah, ce qu'ils sont propres, ah, ce qu'ils sont disciplinés. Et là, il y avait un garage, hein, avec en sous-sol une compagnie de garde, parce que sur l'avenue Kléber, tous les hôtels étaient des états-majors, de l'aviation, de la marine, de ceci. Et alors, la relève se faisait par compagnie de garde. Alors, ils partaient le matin, une compagnie, une grosse compagnie, et les gars montaient la rampe. Ils montaient la rampe là, du garage en tapant du pied. Et quand le premier boss arrivait et tapait du pied sur l'avenue Kléber, tac, il chantait. Et en face, hein, il y avait tous les matins 200, 300 personnes, des adultes, des gosses et tout, des mecs avec des gants beurre frais, et ils regardaient et disaient, on peut régler sa montre sur ces gens-là. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
Mais c'était de la résistance.
C'est pas autre chose.
Mais cette année.
Mais comment expliquer ça? Mais ça s'explique par Dunkerque, ça s'explique par Marcel Kébir, 1300 marins tués. Marcel Kébir, 1300 marins tués. Il n'y a qu'à voir ce que ça représente comme blessés, comme amputés, comme autres. Alors moi je veux bien qu'on raconte la guerre, mais qu'on la raconte telle qu'elle s'est passée, et non pas telle que des résistants d'aujourd'hui inventent des choses.
Il y a un chiffre qu'il faut rappeler quand même, parce que ça montre la relativité des choses, et puis surtout ça montre à quel point on abrutit maintenant les Français avec des histoires. Ouais. On entend parler maintenant depuis 2 ans, 3 ans, tous les jours du 11 septembre.
Ouais.
La tragédie du 11 septembre, les morts, la terrible choc pour l'Amérique de la mort de ces gens qui étaient dans la tour. Et tout. Je rappelle quand même que en France, entre 1914 et 1918, il est mort sur les champs de bataille tous les 2 jours l'équivalent du nombre des morts du World Trade Center. Tous les 2 jours, la France apprenait tous les 2 jours la mort d'autant de ses fils que l'Amérique a appris au moment du 9-11. Du 11 septembre. Donc, ça relativise quand même bien les choses.
Tu as entièrement raison, et le drame de notre pauvre patrie, c'est qu'elle va mourir si on laisse des charlatans raconter constamment n'importe quoi.
Mais le problème,
et tous ces gens racontent n'importe quoi. Il n'y a jamais personne pour les contrer. Si le gars de la télé qui est là, hein, qui interview, où il se tait, où il en rajoute dans le sens de l'invité. Et l'année dernière, je tombe sur une radio, je ne sais pas laquelle, peut-être Europe 1 ou autre, enfin peu importe, c'était le 11 novembre. Le 11 novembre 1940, il y a des étudiants qui avaient manifesté à l'Étoile. Alors certains étudiants étaient venus avec des cannes à pêche, 2 cannes à pêche chacun, c'était De Gaulle. Bon, il y avait quelques centaines. Non, mais c'est vrai, ça existait. Il y avait quelques. Oh, mais si toi tu doutes en face de
non,
moi.
Non, mais... non, mais c'est Victoria Guillaume qui se fait.
Non, mais on ne peut pas reprocher de ne pas raconter l'histoire, et quand quelqu'un la raconte officiellement.
Vous n'étiez pas là.
Il y a quelques étudiants, quelques dizaines d'étudiants qui sont montés à l'Étoile avec des cannes à pêche De Gaulle. Bon, et il y a un gars qui raconte ça à la télévision. Il y avait une gamine qui connaissait rien, qui en parlait, je sais pas pourquoi. Et puis il y avait un gars qui en parlait, et on sentait à sa voix et à ce qu'il disait qu'il y était. Il y était, le gars. Ça se sentait. Bon. Et puis il y a un gars aussi, alors le gars lui dit, alors et vous aussi, monsieur, vous y étiez? Moi j'étais balayeur à la ville de Paris, moi j'étais balayeur à la ville de Paris. Alors j'étais en haut des Champs-Élysées, là, où il y a le drugstore maintenant, là, hein. J'étais avec mon balai, là, j'avais mis ma serpillière pour faire couler l'eau, j'étais avec mon balai, et qu'est-ce que je vois d'un seul coup? Une cinquantaine de bosses, hein, avec des vestes, avec du rouge, c'était l'état-major officiel allemand, le grand état-major, puisqu'ils avaient les revers de veste rouge. Hein, je dis, de quoi les boches apparus? Je prends mon balai, je te rentre dans la gueule de tout ça. c'est quoi? Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je te rentre dans la gueule de tout ça. L'état-major officiel de la Wehrmacht qui est installé dans les bâtiments qui sont en haut de l'étoile.
Ben, hein. Constatez quand même, Roger Olindre, que la résistance que vous avez décrite comme un peu faiblarde en 1940 est devenue cette année quand même beaucoup plus vigoureuse contre Hitler.
L'embêtant, c'est que moi, je n'attaque jamais la résistance, parce qu'il y a eu des types courageux. Il y a déjà eu des types courageux qui étaient des communistes, qui ont refusé l'accord entre Staline et Adolphe. Et à cette époque-là, eh bien, ceux qui marchaient contre les Allemands, hein, et qui n'obéissaient pas aux ordres du Parti communiste français, les francs-tireurs, qui sont devenus par la suite francs-tireurs et partisans, avaient ordre de les descendre. Les premiers communistes qui ont été tués par les tueurs du parti communiste, parce qu'ils n'avaient pas obéi, et ils n'obéissaient pas aux ordres de s'aligner sur l'idéologie nazie de M. Adolphe. C'est ça la réalité. Alors le jour où on entendra ça à la télévision, on dira bien, peut-être que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale est racontée correctement. Tant qu'ils ne diront pas ça, bien, il vaut mieux qu'ils se taisent.
Et là, s'ils se tairont pas, et tu ne seras pas invité, cher Roger.
Non, je ne serai pas invité, décidément pas invité.
Les gens qui nous écoutent le savent, parce que ça, c'est la vérité historique.
Je voudrais redonner la parole à quelques auditeurs. Bon, c'est à moi maintenant, parce que un auditeur dit sur le mariage des prêtres, les popes et les pasteurs sont mariés, ça n'est pas, ils ne sont pas moins croyants que les curés. Je ne crois pas que ce soit le problème.
Mais je ne suis pas le seul.
Le problème, c'est que notre religion veut que les curés ne se marient pas. Bah, le mec qui ne veut pas...
Qui veut se marier, il n'est pas curé.
Il veut se marier, il fait autre chose.
C'était hier un argument de l'auteur de ce livre sur les femmes de prêtres sur France Inter. Donc, une fois de plus, je constate qu'on a beaucoup d'auditeurs de gauche.
Un jour, il y a un journaliste qui dit à Simone de Beauvoir, mais pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas? Elle était avec qui? Avec Sartre, quoi. Hein,
oui, ben, là,
pourquoi
là,
vous ne vous mariez pas? Enfin, jeune homme. Mais qui veut encore se marier à notre époque, à part quelques prêtres?
Bien, le mot Inch'Allah n'est pas exclusivement musulman, c'est vrai, monsieur Olin. Les chrétiens arabophones l'utilisent aussi souvent que les musulmans. Il n'y a donc aucune honte parmi nous à l'utiliser.
Non, mais je n'ai pas honte. Je dis simplement qu'une jeune fille qui va devenir religieuse catholique et qui va vouer sa vie au Seigneur, eh bien, elle n'a pas besoin de dire Inch'Allah.
Elle peut dire Dieu veuille, par exemple. Ah. Ou Dieu voulant, comme dit monsieur Chonu. Voilà, les chrétiens arabophones disent Allah pour Dieu. Il y a un très joli message sur les illuminations de la Tour Eiffel et leur sens caché, mais 7h20 c'est un peu tôt pour le lire. Voilà. Il y a un autre. Décidément, le maréchal Pétain est très bien vu à Paris en ce moment. C'est nous faire remarquer un auditeur, parce que je parlais de l'hommage qui lui est rendu à travers un de ses serviteurs, François Mitterrand, par Bertrand Delanoë, avec l'ouverture du quai François Mitterrand. Mais il y a un autre hommage qui lui a été rendu, nous dit cet auditeur. C'est l'hommage que lui ont rendu donc les dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé pour manifester leur attachement irréductible à la loi du 11 mars 1941. Instituant la retraite par répartition à 60 ans. C'est vrai, au fond. Voilà.
Je continue.
Vas-y, ma cocotte.
Monsieur de Gégère, ce que vous dites est faux. Le pape a employé le mot de crime pour accuser les Croates. Et contrairement à vous, je ne lis pas les journaux gauchistes comme Le Monde. Ah, à quoi vous sert-il de mentir?
Ah, monsieur. Oui, je pense que je suis stipendié par le Vatican pour diffuser des mensonges sur Radio Courtoisie. Je vois que ses auditeurs sont extrêmement lucides et d'une telle lucidité qu'elle peut devenir aveuglante. Je ne dis pas que le pape n'ait pas parlé de crime. Le message, je ne l'ai malheureusement pas sous les yeux, le message disait que le pape avait insulté les Croates en les traitant d'assassins. Je crois que ça n'est pas insulter les Croates que de reconnaître que dans la guerre civile qui a suivi l'éclatement de la Yougoslavie, il y a eu des crimes dans tous les camps. Ça ne me paraît pas... je veux dire, les gens qui ont fait la guerre peuvent témoigner qu'il n'y a pas de guerre sans crime de guerre. La guerre, c'est une chose terrible. La guerre civile est une chose encore plus terrible. Et dans une guerre civile, il y a des crimes. Pour sortir d'une guerre civile, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Eh bien, il y a l'oubli, le pardon réciproque. C'est le contraire de l'épuration.
On le sait depuis Henri IV.
On le sait depuis Henri IV. On le sait depuis l'édit de Nantes est un édit d'oubli des crimes des guerres de religion. Personne ne prétend que dans les guerres de religion, les catholiques n'ont commis aucun crime, les protestants tous les crimes, ni l'inverse. Donc, la démarche qui consiste à dire que pour sortir d'une guerre civile, il faut se pardonner réciproquement les crimes qui ont pu être commis, je ne vois pas en quoi elle peut être choquante. Alors, quant au fait de ne pas lire les journaux gauchistes comme Le Monde, eh bien, je vous félicite, monsieur, mais je dis simplement que même sans lire Le Monde, on peut être victime de ces manipulations, car elles sont relayées par d'autres journaux, par des journaux de province, par des télévisions, par des radios, et on peut croire sincèrement avoir entendu de ses propres oreilles, vu de ses propres yeux, des choses que l'on n'a pas vues. Je donne dans le livre sur la repentance un certain nombre d'exemples qui sont édifiants de manipulations qui ont extrêmement bien marché. Si on a une seconde, je vais donner un exemple parce qu'il m'avait impressionné. Lorsque le pape a fini cette histoire de repentance, s'étale sur 6 ans. Elle culmine avec une cérémonie qui a été organisée au carême de l'an 2000. Eh bien, ayant pris conscience, je pense, d'un certain nombre de risques qui étaient liés à cette cérémonie de repentance, le pape a décidé de n'évoquer aucun épisode de l'histoire au cours de cette cérémonie. Et il a demandé pardon pour un certain nombre de comportements sans désigner le moindre épisode de l'histoire précis pour justement ne pas jeter le discrédit, c'est ce qui a été dit à ce moment-là officiellement par le Vatican, pour ne pas jeter le discrédit sur des institutions qui avaient leur vertu. C'est-à-dire que le Vatican, le pape a reconnu que par exemple l'Inquisition, ce n'était pas un phénomène tout noir, qu'il y avait peut-être un tri à faire, qu'il y avait peut-être eu des dérives ici ou là, mais qu'il ne fallait pas discréditer l'Inquisition parce que les inquisiteurs avaient été émus par la défense de la foi. Et que donc, eh bien, on ferait repentance pour les crimes qui avaient pu être commis, mais sans désigner un épisode d'histoire particulier. Le cardinal Ratzinger et un autre cardinal dont je ne me souviens pas le nom là à l'instant, organisent une conférence de presse pour expliquer ça. À l'issue de cette conférence de presse, les journalistes tournent autour d'un monsignor, romain, qui est fait partie des gens qui, dans l'Église, travaillent, je ne dirais pas à la destruction de l'Église, mais à sa subversion au moins, et lui disent, bah oui, tout ça c'est bien gentil, mais c'est pas très précis, il nous donne des thèmes, des crimes, tout ça c'est bien vague. Et le monsignor sort une liste toute prête, qu'il distribue aux journalistes, où on met, bon, bah, quand le pape demande pardon pour la violence, les épisodes où on a usé de violence au service de la foi, bah, cela vise les croisades, l'Inquisition, quand il parle de ceci, cela vise tel épisode, c'est-à-dire qu'il fait exactement le contraire de ce qu'avait demandé le pape. Et le lendemain, tous les journaux, gauchistes ou pas gauchistes, publient cette liste de ce monsignor comme un document officiel, et donc toute la manœuvre du Saint-Siège qui consistait à essayer d'éviter de mettre en cause les institutions est mise en pièce par cette manœuvre subversive de ce monsignor. Et bien dans ces 6 ans qui sont entre 1994, le lancement de l'examen de conscience et le jubilé de l'an 2000, des manœuvres comme celle-là, il y en a 10. Et c'est ça que j'essaye de raconter dans ce livre. Et donc je dis, aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de repentance, lorsque vous entendez que le pape a demandé pardon, allez au texte. Regardez ce que le pape a dit exactement. Je ne dis pas que tout soit forcément justifié, etc. Mais je dis, ça n'est pas ce qu'on lui fait dire. Quant à l'affaire de la Croatie, honnêtement, toute la diplomatie vaticane a été, dans l'affaire Yougoslave, du côté de la Croatie. Alors, accuser le pape d'insulter collectivement le peuple croate en les traitant d'assassins, eh ben, c'est excessif, et tout ce qui est excessif est sans portée.
Merci Michel de Gégère. Je vous rends votre liberté, puisque je sais que vous avez eu la gentillesse de rester avec nous plus longtemps que prévu. Et je rappelle que, pour assister, vous venez d'avoir un échantillon de ce qu'on peut entendre lors de l'université d'été de Renaissance catholique. Et je crois que ça devrait inciter beaucoup d'amis de Radio Courtoisie à se rendre à Villepreux. C'est vraiment tout près de Paris. C'est à 20 km à l'ouest de Paris, par l'autoroute qui me conduit à Deauville, mais je doute que vous alliez à Deauville. Et c'est à 8 km de Versailles, donc c'est très facile. Pour tout renseignement, je vous rappelle que vous pouvez appeler le 01 46 62 97 04, 01 46 62 97 04, pour participer à cette université d'été qui se déroulera du dimanche 13 au mercredi 16 juillet 2003. Merci. Eh bien, nous...
J'ai juste le temps de vous dire une petite...
Oui, voilà.
Que les chrétiens de France méditent le sort des Serbes du Kosovo. C'est un auditeur dont la mère est française catholique et le père serbe orthodoxe. Quelqu'un vous dit, vous n'avez pas parlé du phénomène Harry Potter. Et attendez, j'ai un message pour vous qui est juste
J'ai
pour
dit
le temps.
Une fois ce que j'avais à dire sur Potter, je ne vais pas assurer encore plus de publicité à ce bouquin. Je trouve qu'elle gagne assez de fric, cette femme.
C'est un message, elle, tant mieux, oui. C'est un message personnel. J'aimerais faire part à Serge Lebekech de l'incidence de son attitude sur mon état de santé. En effet, chacune de ses absences à l'antenne me plonge dans un état de dépression profond, m'obligeant à consommer nombre de médicaments et autres neuroleptiques, et à suivre une psychanalyse qui me coûte très cher. Heureusement, il y a l'émission de Jean Ferret, toujours fidèle au poste, pour me remonter le moral de lundi soir. Je compte donc lui envoyer le montant de mes séances de psychanalyse qui se chiffre jusqu'à présent à 5 400 €.
À qui? À Jean Ferret ou à moi?
Bah non, à Jean Ferret, donc vous êtes un pilier de radio, Serge.
Il faudrait mieux me les envoyer à moi, Jean Ferret. Il n'a pas de famille, il est... Non, envoyez à moi, madame, je saurai en faire bon usage. Sur Radio Courtoisie, on entend fréquemment que les Arabes et les musulmans n'ont rien inventé, ou ce qui est équivalent, ils n'ont rien apporté. Donc la civilisation musulmane, nous dit cet auditeur, n'existe pas, il n'y a que l'Occident chrétien qui a tout découvert. Monsieur, je vous laisse la responsabilité de ces propos.
Non, on n'a jamais dit ça, personne n'a...
Ben non, mais c'est lui, c'est pour ça que je laisse la responsabilité de ses propos.
Personne n'a jamais dit ça.
Nous avons terminé pour quelques minutes et nous reprendrons après la coupure traditionnelle.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. Tout à l'heure à 21h dans la soirée musicale Série Jazz, les musiques de films avec Claudio et les quatuors à cordes de Beethoven. Et puis tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beketch en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est précisément 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 25 juin de 18h à 21h, en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, nous attendions le marquis, mais le marquis est en, non pas en retard, puisque ça n'est pas son genre, mais non joignable, puisqu'on devait avoir un entretien téléphonique. Nous allons attendre un petit peu dans l'espoir que cette ligne va se libérer. Un auditeur m'envoie un message que je ne comprends pas très très bien, mais je vous le lis, peut-être que quelqu'un pourra le comprendre. Il s'y fait allusion au fait que Delannoy a débaptisé en quelque sorte un quai pour lui donner le nom de Mitterrand, et il propose qu'en contrepartie, Delannoy inaugure à Paris une rue du quai. Je comprends pas.
Est-ce que je peux meubler aussi, Serge ?
Non, c'est pas du meublage, ça, c'est de l'information. Oui, meubler, non, allez-y.
En donnant ce rendez-vous auquel j'ai fait allusion tout à l'heure à nos auditeurs de Lille et de sa région.
Attendez, vous savez que quand vous donnez des rendez-vous au micro, ça fait problème des fois.
Quel problème, Serge ?
Les réunions sont annulées après.
Non, rassurez-vous, ça, là c'est dans Rivarol, ce sera sans doute dans le Libre Journal 297. Envoyez un carnet de timbre si vous voulez un spécimen à SDB 4 place Francis 75010.
Il est bien donc, formaté.
Je pense que ce sera maintenu sans aucun doute. Donc nos amis de Lille et de la région Nord sont conviés samedi 28 juin à la fête de l'identité. Donc c'est à Centre, à 5 km de Lille. Notre char de combat sera présent, Camille Gallic. Et dans cette bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que Serge de Beketch était annoncé et qu'on devra se contenter de son bras droit, disons, moi-même.
De notre Goffman bien-aimé. Ouais. Vous pourrez découvrir Goffman, qui est beaucoup plus beau que moi, il est plus grand, il est plus jeune d'abord.
Donc le 28 juin à Lille-Centre, de 10h à minuit. Deuxième rendez-vous, donc, pour... Paris 15e, dimanche 29 juin, le lendemain. Bon, je pense qu'on viendra de tout Paris et de la banlieue. Conférence identitaire, Demain qu'est l'Europe, avec Randa, Bunel, Blanchard, Fersan, Faye et un invité surprise. Participation 5€, donc c'est à partir de 13h45, c'est dimanche 29 juin, salle des Berthelots, 145 Terre, avenue de Suffren, métro Ségur.
Eh bien, alors, je me tourne maintenant vers Klaus Steger, qu'on appelle Claude aussi, c'est comme on veut. Si on parle le dialecte, on dit Klaus, mais si on parle français, on peut l'appeler Claude. Alors, Claude, il faut que je le décrive rapidement, pas physiquement, parce que physiquement, c'est monsieur propre, hein, comme dit William.
C'est mieux que de ressembler à un homo.
Oui. Hein, vous pourriez sourire, on n'a rien compris. Ça fait, oui. Alors, j'ai dit qu'il ressemblait à monsieur propre, il me dit que c'est mieux que de ressembler à homo.
Mais moi je suis totalement imperméable à ce genre de plaisanterie.
Elle ne sait même pas que ça existe. Il est le patron d'un restaurant qui s'appelle l'Alzaco, et ça fait des années que je voulais l'avoir à ce micro. Mais c'est impossible parce que naturellement il travaille au moment des émissions, il prépare sa cuisine, et là j'ai la chance à cause de la canicule de pouvoir le recevoir.
Il y a aussi un peu des grèves.
Et des grèves de pouvoir le recevoir parce que le travail a quand même baissé.
Ah, ça traîne.
Il hein faut dire que la choucroute de chez Klaus à 35 degrés, ça, c'est un petit peu, peut-être, je sais bien que tu prétends que la choucroute est un plat d'été.
Un plat de régime.
Un plat de régime, ça, oui, ça, on ne sait pas quel régime. Mais... enfin, quand même,
18 calories pour 100 grammes, la choucroute.
Alors en tout cas, voilà, il est là. Et alors pourquoi je lui ai demandé de venir ? Parce que Klaus est un esprit original. Et mon rêve, ce serait de faire une espèce de, avec lui, une espèce de contre-chronique du Marquis, parce que c'est un autre univers, mais qui est tout aussi intéressant, tout aussi amusant que celui du Marquis. Alors on va essayer de mettre ça au point plus tard, mais je lui ai demandé de venir ce soir, parce que vous savez qu'il y a eu un grand débat, depuis longtemps, sur la TVA, les restaurateurs à la TVA. Et vous allez dire, après tout, on n'est pas tous restaurateurs, ça a beaucoup d'importance. Si, ça a de l'importance, puisque censément, ce que disent les restaurateurs, c'est que si on fait passer, comme c'est le cas pour la restauration rapide, la TVA de 19,6 à 5,5 pour les restaurants assis, les restaurants normaux, eh bien, ça permettra de faire économiser de l'argent aux consommateurs, et donc ils seront plus nombreux parce que ça sera moins cher, etc., etc. Et alors, Klaus me dit, mais non, c'est pas du tout mon interprétation des faits. Et comme je trouve que son analyse de la situation est un bon exemple de ce que peut donner une réflexion originale quand elle est intelligente et quand elle est réellement originale, je lui ai demandé de venir pour expliquer ça. Alors, Klaus, pourquoi es-tu absolument hostile à la diminution de la du taux de TVA sur les notes de restaurant.
Parce qu'il s'agit d'un vrai faux problème. En effet, déjà, TVA, ça veut dire quoi? Tout va augmenter. Il n'y a pas de raison que ça baisse, déjà. Bon, en plus de ça, la TVA est un impôt fort juste, car il est supporté par la totalité des consommateurs. Quel qu'il soit, quoi qu'il consomme, il paye de la TVA. On paye de la TVA sur la nourriture, sur les vêtements, sur les voitures, sur l'essence, sur le péage de l'autoroute, même sur les agios bancaires, on paye de la TVA. Donc elle est supportée absolument par tout le monde. Et elle est généralement supportée au prorata des moyens que nous avons chacun de consommer. Celui qui gagne 50 000 francs par mois dépensera, consommera plus, placera plus d'argent à sa banque éventuellement sur laquelle il va encore payer de la TVA, même sur les machins. Donc, en fait, c'est un impôt qui est supporté par la totalité des consommateurs, par les touristes et même par les immigrés clandestins, travailleurs clandestins, chance pour la France, qui sont ravis de participer à ce grand effort citoyen et de payer eux aussi un petit impôt. J'en suis ravi, je suis persuadé qu'ils seraient frustrés de ne pas participer à l'effort. Alors que si aujourd'hui on nous baisse la TVA, très bien, nous on va baisser nos prix. Comme le gouvernement a franchement et largement besoin d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous augmenter un autre impôt. Mais quoi? Il va augmenter l'impôt sur le revenu supporté par un minimum de consommateurs, par un minimum de personnes. Il va nous augmenter les taxes professionnelles supportées que par les commerçants. Donc un impôt supporté par 65 millions de Français plus peut-être 50 millions de touristes, j'en sais rien, va être supporté par 10 millions seulement de contribuables. Donc en fait, cet impôt supporté par tous et donc relativement, je dirais, entre guillemets, bon marché, va être remplacé par un impôt qu'on va être très peu nombreux à supporter et qui va absolument augmenter. Donc nous, la TVA va baisser, nous on va baisser nos prix, le gouvernement va nous augmenter un autre impôt, et une fois de plus, on l'aura dans l'os, comme d'habitude. Et alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est que moi, commerçant, je n'ai pas été contacté par ceux qui sont supposés me défendre, c'est-à-dire nos syndicats professionnels. J'ai été contacté par qui? Par la petite cellule locale de l'UMP, qui me dit, nous organisons un truc pour la baisse de la TVA, est-ce que vous voulez bien signer? Alors, je ne vois pas pourquoi. Les représentants de l'UMP, les représentants du gouvernement me demandent d'aller manifester contre le gouvernement en place. J'ai quelque chose qui m'échappe. Pourquoi le gouvernement voudrait nous demander à nous de descendre dans la rue pour baisser un impôt que lui, il suffirait qu'il le baisse de lui-même. Il n'y a pas besoin qu'on descende dans la rue pour ça, quoi. C'est ça qui m'inquiète.
Alors, il y a une autre chose que vous avez faite récemment. J'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi. Vous avez eu le culot, quoi, parce qu'il faut quand même un certain culot d'afficher pendant les grèves à la porte de votre restaurant. Du coup, je me mets à vous voyez. Le culot d'afficher à la porte de ton restaurant une pancarte sur laquelle il y avait marqué interdit aux grévistes.
Ben oui, les grèves vont empêcher mon personnel de venir sur leur lieu de travail. Sans personnel, je ne peux servir qu'un strict minimum de clients. Donc, je donne la priorité à ceux qui ne sont pas responsables de l'absence de mon personnel. Donc, j'ai marqué « restaurant interdit aux grévistes », ce qui m'a valu des commentaires de tout genre. Beaucoup de félicitations, c'est très bien. Quand j'ai dit à mes voisins, puisque vous trouvez ça très bien, faites-le autant, ils m'ont dit, ah non, on peut pas, on est commerçant. Bon, je sais pas ce que je fais moi là-dedans. Bon, et puis, probablement une grande leçon de courage encore. Et puis, il y a aussi des gens qui sont arrêtés, qui ont dit, c'est un scandale, vous n'avez pas le droit de faire ça. Comment ça? Est-ce qu'ils ont, eux, le monopole de la grève? Est-ce que je n'ai pas, moi, droit aussi à la grève? Et en plus, ma grève vous prive de quoi? Elle ne vous prive pas de manger. Elle vous demande simplement de ne pas venir manger chez moi, puisque ne pouvant pas servir tout le monde, les responsables de l'absence de mon personnel seront les premiers privés de manger chez moi. Mais à part ça, ils ont le droit d'aller manger dans n'importe quel néfaste food, dans n'importe quel McDonald's et boire du Coca-Cola, tant qu'ils en veulent, ça, il n'y a aucun problème.
Alors, à propos du Coca, j'ai eu la surprise de découvrir qu'on trouvait non pas du Coca, mais du Cola.
J'ai le Braise Cola maintenant,
Braise
Coca-Cola
Cola
breton.
Voilà. Qui est-ce qui a inventé ça?
Probablement un breton, et là j'ai demandé à mon fournisseur alsacien d'inventer le Elsasser Cola. Alors, Elsasser Cola, ça va être le pendant du Braise Cola, parce qu'après tout, je fais de l'anti-américanisme primaire depuis très longtemps. J'ai vendé le Coca-Connard 48 francs chez moi, ça m'a valu quelques ennuis, même d'ailleurs, notre justice bien aimée.
C'était le regretté Jean Nourigat, lui, quand les gens entraient dans son bistrot, enfin dans son restaurant, et lui demandaient un Coca-Cola, il y avait deux hypothèses. Première hypothèse, la mauvaise, certes, le gars se faisait virer à coup de pompe dans le fondement. Deuxième hypothèse, si c'était une jeune fille, Jean ouvrait le tiroir caisse, il sortait une pièce de 5 francs, il disait à la fille, ta saloperie, ta pisselane, tu vas l'acheter au bistrot d'en face.
Mais il y avait l'anecdote qui est d'ailleurs, qui est assez ancienne, ça remonte à 94, où une dame vient manger avec son grand couillon de fils.
Ah bah, je suis dans la chaise, je me dis, j'aurai un Coca-Cola. Coca-Cola, je précise que le Coca-Cola, chez moi, coûte 48 francs. La dame me dit, oh, mais monsieur, mais c'est une honte, c'est un scandale, mais c'est du vol. Je lui dis, madame, je sais que c'est du vol, mais maintenant que vous le savez aussi, si vous l'achetez quand même, c'est que vous êtes une conne. Ben, figurez-vous que ça m'a valu quelques ennuis avec la justice. Eh oui, nous sommes quand même, n'oublions pas, dans un grand pays démocratique. Et non. Bon, alors donc, voilà les raisons pour lesquelles.
Alors,
on va. Des bons mots, on trouve autre chose.
Oui, on trouve autre chose. Je voudrais en parler brièvement parce que, blague à part, est-ce qu'il y a en Alsace, parce qu'en Alsace, en ce moment, il y a une canicule terrible aussi, est-ce qu'est-ce qu'ils mangent les Alsaciens? Ils mangent pas de choucroute en plein été.
On mange le bœuf grossel crudité, c'est de la viande de pot-au-feu chaude, servie avec une assiette de crudité. On mange des tartes flambées. On mange des pommes sautées avec du pip à la casse. On mange un tas de choses en Alsace. J'ai jamais vu les Alsaciens maigrir en été.
Ça me donne faim. Oui, c'est pas vrai. Et alors en plus, on va parler des vins à deux minutes. Parce que c'est vrai que toi, c'est une des plus belles caves de vin d'Alsace. À Paris, je crois.
Oh, je pense sans prétention la plus belle, oui, puisque je référence à peu près 400 vins d'Alsace. Je travaille avec 55 vignerons. Et je m'oriente de plus en plus maintenant vers les vignerons qui travaillent, qui rentrent entre guillemets en bio.
Sans... traditionnel.
Voilà, bio. Bon, quand je parle de bio, je ne parle pas de ce mot à la mode galvaudé utilisé n'importe comment, aussi bien par des pastèques, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, que par tous ces tenants d'un pseudo pouvoir. Non, je parle de la bio, c'est-à-dire le respect des lois fondamentales de la nature. Voilà, pas ce que font les José Bové et autres. Tiens, en parlant de José Bové, vous savez comment on l'appelle maintenant?
Non.
Depuis qu'il fauche le blé, le céréal killer. J'ai trouvé ça tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était assez drôle.
Vous avez le droit de revenir en deuxième semaine.
Et donc, je m'oriente vers les vins bio parce qu'en fait, depuis le temps que nos grands ancêtres nous pourrissent la terre avec des engrais chimiques, pesticides, insecticides et autres, la vigne a fini, la racine de la vigne a fini, au lieu de s'enfoncer dans la terre pour chercher de la substance très profondément, tout lui venant du ciel, la racine a fini par se répandre sur les côtés, voire même à sortir, on a fini par faire de la culture hors sol, parce que la nourriture de la vigne venant du haut, la racine n'avait pas besoin de ses vertus à creuser, un peu comme vous, si je vous file le RMI, vous n'allez pas bosser. En fait, le RMI, c'est comme les engrais chimiques, c'est contre nature, Et ça n'a rien à voir avec la nature, avec les lois fondamentales de la nature. Donc il n'y a aucune raison que les écolos soient de gauche. L'écologie est une vertu de droite puisqu'elle respecte avant tout la nature telle que Dieu nous l'a donnée. Et Dieu ne nous a pas donné d'engrais chimiques.
La première campagne présidentielle à laquelle Jean-Marie Le Pen a participé, j'avais été à l'époque, Radio Luxembourg organisait des débats avec des journalistes représentant les différentes tendances, plus exactement des représentants des différents candidats opposés à un candidat. Et moi j'avais été désigné pour affronter Dumont. Le candidat écolo.
Oui.
À l'époque, qui était un vieux monsieur parfaitement respectable, avec un passé d'ailleurs parfaitement respectable, qu'on a découvert qu'une fois qu'il était mort. C'était dommage parce qu'autrement j'aurais été plus brillant dans mon intervention. Mais j'avais commencé mon intervention en lui disant, mais je comprends pas du tout comment vous pouvez être écologiste et de gauche alors que l'écologie est essentiellement une doctrine de droite. Et ça avait provoqué un véritable choc thermique dans la radio parce que pour eux, c'était absolument impossible que l'écologie soit de droite. Non, donc, tu confirmes ce que je pensais.
Bien sûr, mais l'écologie, c'est de mettre la nature au travail ainsi que les hommes.
Alors, je précise que cet entretien que nous venons d'avoir avec Klaus n'est pas du tout un entretien publicitaire pour une excellente raison, c'est que son restaurant ferme demain, je crois.
Le 1er juillet.
1er juillet.
Mais bon, venez pas en ce moment.
Et qu'il n'est pas ouvert le week-end. Donc, voilà.
Est-ce que je peux quand même dire un mot
la dernière ligne droite, donc.
De son plateau de fromage on peut donner quand même son adresse.
Ça, on peut. Le plateau de fromage est admirable parce qu'il y a combien 6 ou 7 degrés de maturité du Munster.
Voilà, j'ai le Munster sous différentes formes d'affinage et ça va du...
dont un qu'on siffle et qui vient tout seul à la table.
Voilà, et puis on peut aussi, bon, quand je suis de bonne humeur, j'ai un peu de temps, je peux même le faire flamber avec de l'alcool de cumin.
Je voulais mettre les gens en garde contre ce plateau de fromage parce que j'étais invité récemment, je suis le plus vieux gigolo de Paris, j'étais invité par notre amie Catherine Barnet, je la remercie encore, et on se tape une choucroute et bon, à nos âges, il faut quand même la digérer. Et là-dessus, on a le malheur de demander du Munster et on voit s'amener ce plateau et au bout d'un moment, alors qu'on n'avait plus faim depuis longtemps, on a supplié Klaus d'emporter ce plateau parce que on pouvait plus arrêter tellement c'était bon. Le Munster est vraiment un fromage délicieux. Il est devenu introuvable. Mmh. Ben, il y a une adresse, c'est l'Alsaco.
Ce qu'il faut surtout, c'est penser à l'accompagner d'un peu de Gewürz.
Alors, c'est ridicule que de vouloir mettre du vin rouge avec le Munster.
Donne l'adresse quand même, parce que retenez ça pour la rentrée.
De l'Alsaco?
Bah oui, tant que oui,
ça se passe.
Si tu veux donner l'adresse d'un autre restaurant, je veux bien. Mais...
Alors, l'Alsaco se trouve au 10 rue Condorcet, Paris 9e. Le téléphone est le 45 26 44 31. Et je rouvre à partir du 1er septembre. En septembre, le chou nouveau va arriver, donc un chou léger, craquant, qui a très peu fermenté et qui est vraiment un plat très digeste.
Bon, si vous étiez gentil, vous répéteriez.
10 rue Condorcet, Paris 9e.
Et le téléphone ?
Le 45 26 44 31.
Et alors maintenant, tout à fait autre chose. Merci, Klaus, mais tu peux rester, il n'y a pas de problème. On a été un peu long sur la musique. Allô, Marquis.
Bonsoir, comment allez-vous, Serge?
Bonsoir, Marquis. Vous êtes à l'autre bout du monde, j'imagine.
Eh ben oui, je suis à Barcarès. Il fait un temps fabuleux. J'avoue que moi qui aime la chaleur, je suis un peu accablé quand même.
Pourquoi vous croyez qu'il fait froid à Paris?
Non, mais c'est pire ici. Puis alors, j'entendais parler de Munster. Alors là, ça, j'avoue que ça m'a un peu perturbé. Là. Je ne me voyais pas que Munster à part une chaleur pareille.
Ah ben, ça se mange par tous les temps, le Munster.
Ah ben, je sais bien, oui.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter d'intéressant? Je crois que vous allez encore nous parler d'un enterrement, c'est votre spécialité.
Oui.
C'est vraiment le dernier endroit où on s'amuse, les enterrements, j'ai l'impression.
Non, mais il y a des gens amusants qui meurent. Mais je vais vous dire un petit mot juste avant. C'est pas spécifique à moi, mais je dois dire que j'ai pris l'avion pour venir à Barcarès et j'ai mis la journée. Parce que, pour des raisons de surbooking, alors que tout était en ordre, on m'a envoyé sur Montpellier, et ça a coûté 2000 francs de taxi à Air France pour m'emmener jusqu'à Perpignan, qui était ma destination première. Et je vais vous préciser aussi une chose, à la douane, je croyais que les douaniers étaient des employés corrects et payés avec mon argent. Comme ma ceinture sonnait quand je suis passé sous le portique, on a bien vu que c'était ma ceinture qui sonnait, on m'a obligé à enlever ma ceinture, j'ai prévenu, mon pantalon est tombé, et là il y a eu une espèce de Didi Amin Dada qui est venu me dire qu'il allait m'apprendre à vivre parce que je montrais mon derrière à tout le monde dans l'aéroport. J'ai trouvé que c'était un peu le monde à l'envers. Enfin voilà.
C'est bon, vous n'en ratez pas une.
Ben non, mais eux non plus.
Alors, et pourquoi des douaniers pour aller à Barcarès? C'est plus en France, Barcarès?
Non, mais c'est parce qu'on passe pour la sécurité.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Vous savez, on ne sait plus très bien où est la France dans la France. Hein. Alors effectivement, je suis allé il y a quelques jours à l'enterrement de quelqu'un qui est un vieux copain, qui a eu cette particularité d'être né avec un nom formidable, Beau, comme un pseudonyme, puisqu'il s'appelait Paul Bola de Varennes. Il y en a d'autres qui auraient bien voulu garder ce nom-là. Ben non, il a pris un nom beaucoup plus simple. Il s'est fait appeler Frédéric Valmain, et sous ce nom, il a écrit des pièces de théâtre qui ont connu un grand succès au théâtre Charles de Rochefort, qui est redevenu le théâtre Tristan Bernard. Et puis un matin, il en a eu assez d'écrire des pièces de théâtre. Sous le pseudonyme de Jim Carter, il a été le plus prolixe auteur de la série noire. Et puis un beau matin, il en a eu marre d'écrire, il s'est mis à faire des masques sous le nom de Cartero. Il a vendu des masques en quantité industrielle dans sa jolie galerie du Palais Royal. Et ce personnage exceptionnel, drôle, amusant, est mort, je suis allé à son enterrement. Mais je voulais simplement signaler que quelqu'un qui était né avec un nom magnifique avait décidé d'en changer alors qu'il y en a tellement qui font l'inverse. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre?
Quelques méchancetés peut-être?
Bah oui.
Parce que là, vous avez été gentil, maintenant il faudrait essayer d'être désagréable.
Bon, alors je parlerai pas de la soirée à l'Interallié, Serge de Becquet-Sanders. C'est une soirée mondaine quand on va à l'Interallié. Et puis, tout le monde m'a dit que c'était formidable. Mais vous avez été très modeste parce que vous n'avez pas fait beaucoup de publicité dans votre propre journal. Ce qui fait que les gens qui l'ont appris après, c'est un peu dommage.
C'est parce que je ne voulais pas donner le spectacle de ma médiocrité en face de Sanders.
Ah, comme c'est élégant, ça. Alors, je ne vais peut-être pas dire de méchanceté, mais je vais vous deux petites choses. On a fêté le 18 juin l'anniversaire de Michou, que tout le monde connaît. Michou, il est pupille de la nation, il est né le 18 juin, donc on peut pas oublier sa date de naissance. Et alors, il aime pas beaucoup, comme toutes les personnes un peu coquettes, le mot « année », le mot « an », tout ça, ça le gêne. Alors, comme tous les ans, pour son anniversaire, il avait invité des personnes du 3e âge, du 18e arrondissement. Enfin, il le fait très souvent, mais ça fait un peu de publicité quand c'est son anniversaire. Et la maison Le Nôtre, pour le gâteau, avait écrit l'âge 72 ans. Mais non, pas 72 ans, 72 mamies, parce qu'il avait invité 72 mamies. Ça évitait de marquer le mot « an ». Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire il y a quelques jours, c'est amusant, enfin, j'ai pas trouvé, moi, il m'a dit que tu ressembles maintenant à Bombard, avec les cheveux, la barbe, la bedaine, on dirait Bombard en solitaire dans l'Atlantique. Alors il me dit ça à midi, je quitte Michou dans l'après-midi, je rentre chez moi pour me mettre dans mon habit de lumière, mon bleu de travail, mon smoking, et je pars à la Tour d'Argent où la baronne de Saint-Didier recevait Esmeralda de Belgique. Bon, j'avais encore un peu Bombard dans la tête, et quand j'arrive à la Tour d'Argent et Claude Terraille, qui était erratique en bas à la porte, le bleuet à la boutonnière, le canapé de la Légion d'honneur, regardant entrer les Japonais dans son restaurant. Et moi, j'entre tranquillement, un peu le nœud papillon en bataille, parce que à cause des grèves, j'étais venu à pied, j'avais transpiré, enfin bref. Il me tombe dessus, il me dit « Bonjour, monsieur le ministre ». J'ai pris un coup de vieux, hein, croyez-moi.
C'est la première fois que le Libre Journal...
Ce que j'ai mangé avec Esmeralda, ça n'intéresse personne.
Si, à côté des tours de Notre-Dame, c'est quand même le bon endroit pour déjeuner avec Esmeralda.
Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Mais qui est Quasimodo dans l'affaire? Je crois que c'est un peu moins quand même.
Ah ben non, on ne pouvait pas être ministre et Quasimodo, faut choisir.
Il faut choisir. Et alors, figurez-vous, les auditeurs vont dire c'est pas possible, ces gens qui sont à la retraite ne fichent rien. J'ai eu une semaine très très active parce que le lendemain, il y avait la soirée cigare au Ritz. Et alors, bon, c'est comme ça arrive très souvent, là, la maison Denis présentait un nouveau Monte Cristo numéro 3 que je vous recommande, qui est une pure merveille.
Oui, ça pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut.
Mais vous fumez qu'une fois par an, c'est ça qu'il faut fumer. Et alors que la soirée se terminait, nous étions encore 3 ou 4 en train de finir de tirer sur notre cigare en buvant un rhum sublime qui allait avec, quand sont arrivés quelques invités échappés de la soirée des Dalmatiens qui se donnaient à l'intercontinental en l'honneur de la Croatie. Et il y a un jeune homme, dont je dirais pas le nom, mais qui, enfin un jeune homme, un vieux jeune homme, qui est arrivé traînant une pauvre bête, un pauvre dalmatien, qui était fatigué, avec une jolie laisse rouge, et ce grand con se baladait dans tout le Ritz en disant « Oh, c'est un cadeau de Jacques Lang, c'est un cadeau de Jacques Lang ». J'ai très très peur pour ce pauvre animal. Voilà, écoutez Serge, maintenant je peux plus vous dire grand chose, vous êtes épuisé, je vous ai tout dit.
Je trouve que... l'organisation Place Vendôme d'une manifestation de soutien à la Croatie avec une exposition de dalmatiens, c'est un résumé à peu près parfait de ce dont on parlait tout à l'heure, c'était la décadence de notre pauvre pays. Merci Marquis, revenez-nous vite, à bientôt.
Merci, au revoir.
Ah, mes pauvres enfants, la vie est dure. Tiens, il y a un auditeur qui m'engueule pour parler poliment. Parce que on a fait des plaisanteries grâce à propos de monsieur Delanoë et consorts. Alors, vous comprenez, la vie devient extrêmement difficile parce qu'on peut plus rire de rien maintenant. Si on raconte des blagues juives, on est antisémite. Si on raconte des blagues nègres, on est raciste. Si on raconte des blagues...
Belges,
on est xénophobe. Si on dit du mal des fonctionnaires, on est... Si on blague sur les fonctionnaires, on est contre les fonctionnaires. Si... Alors, les seuls dont on peut rigoler autant qu'on veut, c'est... le curé traditionnaliste, la bonne sœur en cornette. Alors là, on a absolument le droit, ça n'embête personne. Donc moi, je vais, étant que je suis catholique de tradition, les anciens combattants, mais ça c'est même recommandé. Mais comme je suis catholique de tradition, je vais faire un grand honneur à tous ceux dont j'ai parlé avant, je vais les traiter exactement comme s'ils étaient des bonnes sœurs en cornette. Voilà, donc on a le droit d'en dire du mal et de rigoler. Bon, là, on change complètement de sujet. On va parler d'un livre qui est... Je peux vous l'emprunter parce que j'ai pas apporté mon édition, étant donné qu'on me le pique à chaque fois. Donc, qui est un livre de Inès Perret. Alors, arrachez-moi d'un doute, si j'ose dire. C'est vraiment votre nom ou c'est un pseudonyme ou parce que vos parents s'appelaient Monsieur et Madame Perret et ils vous ont donné le prénom d'Inès?
Exactement.
Ah, c'est superbe, ça. Ça, c'est beaucoup mieux que Désiré, quand même. Inespéré. Bon, on se réveille, les enfants. Non, il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas se réveiller. Alors, le nom est ravissant. C'est, merci. Le nom, le prénom, c'est vraiment c'est un label de qualité. Et en tout cas, de bonne réception. Ça veut dire que vraiment, ils étaient contents de vous voir.
Tout à fait.
Et monsieur Laurent Dapoigny.
Absolument.
Alors, est-ce que vous voulez vous présenter? Parce que vous êtes les co-auteurs d'un guide pratique, Le bonheur est dans le pot, guide pratique pour bien vivre avec les plantes d'intérieur. Et donc, je vais vous demander ce qui justifie, pour l'un comme pour l'autre, ce travail de main à main pour publier un livre sur ce sujet-là.
En fait, l'idée du livre est venue un jour lors d'une visite avec l'éditeur dans le magasin Truffaut. Et, oui. Et il y avait à la caisse des petites plantes d'eucalyptus. Et l'éditeur dit très justement, tiens, tu vois, ça c'est des plantes d'eucalyptus et c'est très très bon dans une maison, ça sent bon. Et quand on a des problèmes de bronches ou de rhume, comme ça arrive à certaines périodes de l'année, eh bien, tu vois, on peut respirer mieux. Et il y avait justement derrière une dame qui était totalement à faune, qui a écouté ce qu'on disait, qui s'est ruée, entre guillemets, sur le rayon prendre les eucalyptus. Et le rayon eucalyptus a été dévalisé très vite, puisque plusieurs personnes qui voulaient, du coup, rien que pour l'odeur, qui n'avaient pas forcément des problèmes de gorge, ont dit, ben super, on va prendre de l'eucalyptus. Et voilà un petit peu comment...
Ça, c'est l'origine du livre.
C'est l'origine du livre.
Et à partir de ce moment-là, vous avez recherché...
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, il y a beaucoup de livres sur les plantes, et en fait, l'idée du livre, c'est de dire, voilà, il y a des plantes qui apportent un certain bien-être, et il y a des plantes, en fait, qui sont des plantes anti-pollution, des plantes stimulantes, des plantes d'anti-stress, des plantes de détente, des plantes aphrodisiaques, et on peut avoir chez soi, à son bureau, ou un autre endroit, une maison de campagne, des plantes d'intérieur pour ce type de...
Qu'on aura acheté non pas parce qu'elles sont belles ou parce qu'elles nous plaisent, mais parce qu'en plus, on saura qu'elles nous apportent un bienfait et un bien-être.
Alors, Inès Pérez, vous êtes journaliste. Mm-hmm. Laurent Dapoigny est docteur en agronomie. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit, mon cher Roger, à quel point on vieillit. Quand les docteurs ont l'âge d'être votre fils, vous dites que c'est le moment de se faire du souci. C'est un peu dur. Pour moi, le docteur, c'était toujours un docteur en agronomie. C'était un vieux monsieur avec un lorgnon.
C'est pas le cas.
Là, on est assez loin du compte, quand même.
Pas encore.
Alors, qui a choisi l'autre pour travailler? Est-ce que c'est la journaliste qui a eu l'idée du livre, qui a demandé l'appui technique du docteur
exactement,
en agronomie?
Exactement, exactement.
Oui, c'est comme ça que c'est
tout à fait.
Moi, je suis venu après, oui. J'étais greffé dessus.
Est-ce que vous avez fait appel à d'autres compétences que celles d'un docteur en agronomie? Parce que il y a quand même une dimension dans ce livre, je dirais pas médical, mais enfin de santé. En tout cas, il y a un aspect de santé basique. Enfin,
oui, on va rester à l'idée de bien-être. Parce qu'on est dans une société où maintenant, dans les villes en tout cas, on est on court beaucoup, on est à droite à gauche, on prend pas forcément le temps de faire les choses, et c'est l'idée de le soir, quand on rentre chez soi, ou même quand on est à son bureau, qu'est-ce qu'on a? On a une pause de 5 minutes où on va penser à quelque chose qu'on a dans la tête et regarder une plante. Et la plante, elle apporte une détente, quoi qu'il arrive. Donc on est plus dans la notion de bien-être au quotidien, on va dire, de détente.
Est-ce qu'il y a des plantes qui ont un effet contraire, par exemple, qui sont des plantes qui ne sont pas recommandées dans une maison?
Ah, alors Laurent?
Donc là, au niveau des plantes d'intérieur, va parler que des plantes d'intérieur effectivement, qu'on retrouve dans les jardineries. Et donc, par définition, elles ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises, sauf si, effectivement, on s'y frotte ou si on va s'amuser à mâchouiller les feuilles. Là, effectivement, ça peut être un petit peu dangereux.
Donc, il y a des plantes, par exemple, qu'il faut éviter quand on a des jeunes enfants chez soi.
Des jeunes enfants qui ont tendance, effectivement, à mâchonner les feuilles ou récupérer les petits fruits rouges, qu'il faudrait les éviter, effectivement. Oui.
Alors, la conception de ce livre, c'est un livre qui est très très divers dans sa conception. Oui, c'est-à-dire qu'il aborde la question des plantes par plusieurs voies. Hein. Plusieurs. Il y a d'abord la présentation qui correspond au titre même, le bien-être est dans le pot, c'est-à-dire les plantes anti-stress, les plantes stimulantes pour se détendre, les plantes aphrodisiaques ou les parfums aphrodisiaques, parce qu'il ne s'agit pas de manger les plantes. les plantes anti-pollution. Ensuite, il y a un joli titre, un peu de savoir vert. D'ailleurs, tous les titres sont, c'est très journalistique, mais c'est joliment tourné. Un peu de savoir vert. Donc c'est plutôt votre partie.
C'est plutôt ma partie. C'est effectivement comment connaître par rapport aux signes de la plante qu'elle a peut-être un petit peu soif, qu'elle a trop d'eau et qu'il lui manque de l'engrais. Et donc, comment déterminer ces signes et que faire pour y remédier,
Alors donc là, c'est les plantes les plus résistantes, des conseils pratiques. Les signaux de détresse des plantes, ça c'est très intéressant, parce que quand on a des plantes à la maison, très souvent, on se demande, on a l'impression qu'elle est, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on est complètement incapable de comprendre ce que c'est, par manque de connaissance des signaux de détresse, justement, et là c'est expliqué. Et puis la toxicité des plantes, qui est traitée aussi. Puis alors, la troisième partie qui est très amusante, c'est la partie la magie dans le pot. Ou alors, conformément à la mode, d'une certaine manière, la mode du New Age et de toutes ces techniques New Age, vous abordez les plantes et le Feng Shui. Le Feng Shui, on avait reçu dans cette émission deux dames qui étaient des spécialistes du Feng Shui et qui nous avaient expliqué ce que c'était. C'est l'art d'aménager son environnement immédiat, son appartement,
pour créer une harmonie.
Pour créer une harmonie, aussi bien par les couleurs, par le choix des matériaux, par la disposition des meubles, par l'ouverture des fenêtres, l'emplacement des miroirs, etc. etc. Ensuite, les plantes tendances, alors ça même le titre est très tendance. L'astrologie et les plantes, l'astrologie chinoise et les plantes. Un peu de magie verte. Alors, j'ai pas lu ce chapitre, mais je suppose que ça doit être très riche de possibilités. Enfin, la magie, c'est quand même fondée depuis très longtemps sur l'utilisation des plantes. J'espère que nos femmes d'intérieur vont pas se mettre à fabriquer des potions magiques à partir des...
On donne pas de recettes.
Non, vous donnez pas de recettes, c'est bien. Ouais. Enfin, vous dites quand même que le bambou est un porte-bonheur dans les cultures asiatiques, qui apporte la prospérité, protège du mal, que le bananier apporte la fertilité, la puissance et la prospérité. Et on voit que c'est toujours les mêmes mécanismes mentaux qui président au choix des vertus accordées à telle ou telle plante. Hein.
Bah d'ailleurs, vous avez une plante tendance actuellement qui est le fameux Lucky Bamboo dont tout le monde parle. Et les gens achètent des petits Lucky Bamboo pour les mettre à certains endroits de leur maison.
Oui, on en voit partout.
On en voit partout. Donc, vous me parlez du bambou, donc c'est très joli en plus.
Alors,
oui.
Roger, je pose une question. À ton avis, qu'est-ce que le cactus protège et encourage? La chasteté. C'est pas très compliqué à comprendre. Il faut vraiment avoir été dans la Légion pour croire le contraire. Les chrysanthèmes sont utilisées en magie pour purifier et neutraliser l'énergie d'un lieu. Voilà. Les fleurs de la passion, comme son nom ne l'indique pas, sont censées apporter la paix, le sommeil et l'amitié. Si, l'amitié, c'est normal. Mais la paix, le sommeil, effectivement, on a l'impression que ça... Alors voilà, c'est des petits conseils amusants, des petites informations amusantes. Et un chapitre consacré à la floromancie, c'est-à-dire la divination par les plantes. Et puis, le chapitre obligatoire, le langage des plantes. Alors, est-ce que c'est la même chose que le langage des fleurs? C'est très différent, c'est...
Ça se ressemble beaucoup, là.
Ça se ressemble beaucoup, oui. On voit, par exemple, que l'acacia, c'est l'amour secret. La marilis, la beauté splendide. Le lierre, c'est le mariage. Je m'attache ou je meurs. L'oiseau du paradis, c'est la fidélité. Le palmier, c'est la victoire et le succès. Donc, si vous mettez un palmier dans votre salon, il se passe deux choses. D'abord, vous êtes assuré de la victoire et du succès. Mais pourquoi? Parce que comme vous ne pouvez plus entrer dans votre salon, vous êtes bien obligé d'aller travailler. Et donc, vous finissez par avoir beaucoup de succès et par réussir dans votre métier. La plante carnivore, je vous ai enfin attrapé. Hein, est-ce qu'on peut offrir une plante carnivore à une demoiselle, d'après vous?
Si on a terminé effectivement le travail, pourquoi pas?
D'ailleurs, incroyable, les plantes carnivores.
C'est très étonnant à voir fonctionner, bien sûr.
Mais par contre, le bambou, pour certains pays d'Asie, le bambou, pour certains pays d'Asie, c'est quand même un don de Dieu, quoi. Hein.
Oui, ils en font tout, ils le mangent, ils font des vêtements,
ils font tout. Avec.
Des maisons, tout. C'est comme le porc chez nous, sauf que ça sent moins mauvais. Ouais. Et puis alors, il y a un autre langage plus précis, par exemple le cactus, c'est pas ce soir. L'impatience, c'est mon horloge biologique est en marche. Le jasmin espagnol, c'est le champ est libre ce soir, c'est joli ça. Mais pourquoi le jasmin espagnol nous donne-t-il ce message?
C'est un langage revisité.
Hein. Oui, c'est inventé par Ignace Perret, j'ai bien compris ça. C'est très poétique, en tout cas. Et myosotis, c'est... N'oublie pas, Fergus Meinisch, hein, tu connais ça, toi. Mais ici, ça veut dire, n'oublie pas de passer chez le teinturier demain matin. Donc c'est aussi un livre très amusant. Et alors, il est illustré par des photos superbes et par qui illustre des fiches. Alors, des fiches techniques, c'est vous, j'imagine, qui les avez
Donc les films réalisés effectivement, donc bon, à l'aide de Truffaut, parce que c'est pas nous qui avons pris les photos. Donc bon, si, même si c'est pas un livre effectivement technique, on a quand même décidé de faire des petites fiches à la fin pour illustrer un petit peu les différentes plantes qu'on cite dans le livre. Donc les gens ont des repères sur où les mettre, la lumière, à l'ombre.
L'exposition, l'arrosage.
Et puis les propriétés, ça c'est très intéressant. Hein, par exemple, la plante chinoise, qu'on appelle aglaonema ou plante chinoise, propriété parfaite comme purificateur général de l'air. C'est intéressant de savoir que...
C'est vrai.
Alors, vous savez, c'est ces grandes feuilles vertes avec des nervures blanches. On en voit partout, ça aussi.
Vous avez une plante aussi, c'est le yucca, qui est assez, répandue.
Qui est une plante tendance.
Voilà, en plus, une plante tendance. Donc, il y a des gens qui veulent s'essayer à mettre des plantes chez eux. Par exemple, elle absorbe l'ammoniac.
Alors, il y a des conseils. Par exemple, le cotylédon undulata, il ne faut jamais l'arroser sur les feuilles. Il faut arroser le pied. C'est un petit bouquin très très facile d'accès, très joli, la couverture est jolie, joliment écrit et en même temps très utile, très précis, parce qu'on apprend plein de choses en lisant, et surtout il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste des questions de votre compétence. Enfin, c'est pas la peine d'être ingénieur agronome ou docteur en agronomie pour en tirer tout le sucre. Et quelle est la plante que vous préférez, vous, personnellement?
L'orchidée.
L'orchidée. Et vous?
Moi, j'en ai pas.
Vous les aimez toutes? Ne pas se fâcher avec la clientèle. Pourquoi l'orchidée?
Parce que, en fait, l'orchidée, c'est une plante, en fait, qui est pas facile à entretenir. Et j'ai découvert un jour qu'il y avait l'orchidée papillon, qui est une orchidée pour débutants. Ça veut dire que quelqu'un qui aime les fleurs, il peut acheter une orchidée et voir comment elle va vivre, comment elle va s'en sortir, comment on va la couper l'été, enfin l'hiver, et comment elle va repousser pour pouvoir vivre 2 ans, 3 ans. Alors c'est une plante que personnellement je trouve en plus très jolie.
Je sais qu'il y a un très grand personnage de roman policier. Alors, un personnage tellement célèbre que son nom m'échappe pour l'instant, qui fait toutes ses enquêtes dans sa serre à orchidées, la serre à orchidées qu'il a sur la terrasse de sa maison de Londres, et où il cultive les plus belles orchidées du monde, sans bouger de cette serre, et il envoie son régisseur, son secrétaire, faire les vérifications, s'enquérir des détails de l'affaire, et puis lui, par simple réflexion en travaillant ses orchidées, car il a la même passion que vous, résout les problèmes criminels. Alors, est-ce que l'orchidée a des effets connus sur le cerveau? Vous avez remarqué ça? Parce que ça rend intelligent?
Non, j'ai pas remarqué
ça. Non, vous dites ça devant.
J'ai pas remarqué ça. Non.
J'ai pas encore fait d'enquête policière. Hein.
Vous êtes journaliste, vous avez fait des enquêtes au moins.
Pas policière. Non. Pas de criminel en vue.
Mais ce qui est certain, c'est que les plantes, de par leur présence, nous sont bénéfiques et nous apportent un bien-être de par l'humidité qu'elles vont apporter dans l'air, de par leur rôle de filtre à air, c'est qu'elles vont absorber le CO2 et de l'eau, et en même temps elles vont absorber d'autres molécules, et entre autres il s'avère qu'aujourd'hui on remarque que nos intérieurs sont très pollués, puisqu'il y a plein de molécules volatiles et qu'elles sont en concentration plus importante même qu'à l'extérieur. Et le fait d'avoir des plantes à l'intérieur de chez soi permet justement d'avoir un rôle de filtre et de nettoyer l'air. Et donc d'être en meilleure santé, on va dire ça comme ça.
Mais quand j'étais enfant, j'entendais toujours les parents dire qu'il fallait pas garder de fleurs dans sa chambre la nuit parce que c'était nocif. Alors qu'est-ce qu'il en est de ça?
Alors ma réaction par rapport à ça, c'est qu'en fait, quand avoir une plante dans sa chambre ou avoir quelqu'un à côté de soi, ça va pas changer grand-chose. La plante, effectivement, la nuit, elle va absorber du CO2 comme une personne qui dort dans votre chambre. Et sauf si effectivement là vous avez une plante, une chambre qui ressemble à une jungle, là ça pourrait être effectivement nocif. Sinon 2-3 plantes va pas vous faire de mal.
Eh bien, je vous remercie. C'est un joli livre que vous avez fait. Il est paru aux éditions du Dauphin. C'est nos amis du Dauphin qui font ça. Ils font des livres bien bien fichus toujours. toujours un peu sur le même modèle.
Livre d'ouverture.
Livre d'ouverture, de découverte de certains domaines, et puis des livres légers, comme ça, qui tiennent bien en main, qu'on a envie de consulter parce qu'ils sont joliment faits.
Et à la portée.
Et celui-là, et oui, et puis en plus, c'est pas cher, puisque celui-là vaut 15 euros, ce qui est vraiment, c'est dérisoire, c'est un cadeau. Donc, Inès Perret et Laurent Dapoigny, guide pratique pour bien vivre avec les plantes d'intérieur. Le bonheur est dans le pot. Et je sais ce qui va se passer quand je vais rentrer à la maison, c'est que ma petite femme va me dire « Mais dis donc, t'as reçu ce bouquin, tu me l'as pas dit, où est-il ?» Et je vais lui dire « Dans mon bureau ». Et là, va tomber un lourd silence, parce que dans le bureau, il y a, je sais pas, 10 000 bouquins entassés. Et donc, on va partir à la recherche du bonheur et dans le pot. Merci d'être venu nous voir.
Merci
et
à vous.
Merci. Peut-être à bientôt
pour
un autre livre. Est-ce qu'on peut écouter un peu de musique? On va écouter Gavino. Ah bon, bah alors si c'est moi qui le dis, qu'effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge, donc il faut nous mettre autre chose, parce que... Guten Tag, wie geht's?
Gut, alles klar.
C'est bien. J'ai deux Allemands. Tu vois, tu disais du mal des Boches tout à l'heure. Tiens, t'es bien monté maintenant. T'es bien avant. Il y a un auditeur qui a dit, est-ce que vous savez pas que c'est grossier de dire des Boches? Et voilà, et maintenant, t'en as à ta gauche. Alors, tu continues à parler sur le même ton?
Je crois pas que ça soit grossier. On situe les choses là où elles doivent être situées.
Mais bien sûr. Alors, Vini Vermeling, il y a Vini et puis Madame Suc, qui sont mes Allemands préférés. Tu connais Madame Suc?
Oui.
Anita?
Oui.
Voilà, moi je l'aime bien. C'est une.
J'ai vu la petite photo.
T'as vu la petite photo dans le journal, voilà.
Les frères Germain. Les cousins Germain.
Les cousins Germain. Parle dans le micro quand même. Je sais bien que chez toi on parle facilement hors micro, mais pour une fois, faire l'effort.
On ne peut pas dire cousin Germain, non. On ne peut pas, hein.
Cousin Germain?
Germain.
Germain, pourquoi Germain?
Pour que ça fasse plus allemand, quoi. Bon.
Ah, German?
Ja.
Ja, natürlich.
Germanisch.
Das kann man. Bon, et on va peut-être parler russe aussi avec Svetlana. Здравствуйте. Как дела?
Как дела?
Хорошо, спасибо.
Я тоже спасибо. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Patrick?
Si j'avais un micro, je voudrais mille et une chose. Allez, je vais partager celui de Roger.
On est vraiment handicapé du micro ce soir. Alors, vous savez, chers auditeurs, vous connaissez Vini, vous savez ses efforts au sein, comme président ou secrétaire général, je ne sais jamais, enfin, quelque chose, secrétaire général de l'Union des Nations de l'Europe chrétienne pour réaliser une véritable Europe chrétienne, ses efforts aussi pour combattre la culture de mort, notamment en permettant à des jeunes femmes de mener à terme leur grossesse et d'élever leurs enfants, et ainsi de ne pas avoir recours à l'avortement, au moins pour des raisons financières. Et pour ça, il y a une association qui a été créée, qui s'appelle SOS Maman. Et j'ai demandé à Vinny de venir ce soir pour faire un point sur l'état, les activités de cette association qui existe maintenant depuis combien de temps ?
7 ans.
7 ans, hein,
ouais.
C'est bien. Alors, le bilan de ces 7 années ?
Cette année, 25 enfants, 25 bébés. Depuis une année, exactement 26 bébés en plus. Mais ils ne sont pas tous nés. Il y en a 18 en attente, qui sont enceintes, des femmes enceintes, qu'on aide, qui ont décidé de le garder, et qu'on aide donc tous les premiers du mois.
Avec comment ça se passe pratiquement? Quand tu dis on les aide, c'est de quelle manière?
Oui, enfin, aide. Déjà, il faut trouver le contact. C'est quand même, c'est une chose très délicate, très intime. Une femme enceinte, elle va pas raconter partout, je suis enceinte un mois et je veux avorter. En fait, ça se dit même plus aux parents. Quand c'est des lycéennes de 17 ans, elles parlent même pas en classe, elles parlent juste à leur meilleure copine. Alors, vous voulez aider les femmes qui sont enceintes pour qu'elles n'avortent pas, faut déjà trouver comment. Trouver l'accès. Et les premières 3 années, on n'a presque rien fait. On a eu 3 cas sauvés. Un, c'était le docteur Dor qui nous a filé, pour ainsi dire, hein, qui nous a donné l'adresse d'une dame de Martinique. Dominique, c'était une formidable affaire. Mais elle aussi, elle avait entendu le docteur Dor dans l'avortoire. Elle était choquée. Elle a avorté quand même. Et un an plus tard, elle retéléphone au docteur Dor. Elle dit, cette fois-ci, je voulais m'inscrire pour l'avortement, et au moment où j'approche le comptoir pour au planning familial, pour le rendez-vous, c'était, elle a dit, comme une barre devant ma poitrine, j'entendais vos paroles, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Et là, il a dit, alors là, madame, moi, je suis pas du tout équipé pour vous aider pratiquement. Moi, je suis une espèce de prophète. Mais j'ai là quelqu'un, c'est Vini. Bon, ils ont fait quelque chose, je vous passe l'adresse. Et voilà qu'on avait Dominique. C'était notre deuxième bébé. Le premier bébé, c'était la bête noire qui nous a filé. Alors ça, c'était quand même vraiment un morceau. Il a dit, bon, c'était dans un café. L'abbé m'emmène là-bas une fille, qui s'appelle d'ailleurs Isabelle. Et il la place devant moi. Il dit, Vini, j'ai pas le temps. Occupe-toi, là, il y a un problème. Elle est enceinte d'ailleurs, tu vas voir. Non, elle n'était pas seulement enceinte, elle se prostituait, elle vivait dans un hôtel avec un black, elle avait tout juste pas le sida, mais elle était chômeuse, enfin c'était un cas, et elle se droguait depuis 15 ans, avec de l'héroïne tous les jours, 500 francs. Avec tout ce que ça veut dire derrière ce petit schéma, hein. Eh bien on a mis 5 ans pour sortir cette fille totalement de tout ça. Elle travaille aujourd'hui, un travail ferme, elle a un HLM, un appartement HLM, elle a son gosse qu'elle a donc accouché, hein, avec elle, elle réussit, et elle nous aide même beaucoup pour SOS Maman. Vous voyez, ça c'est par exemple un cas. Ça c'était un cas d'ailleurs extrêmement cher. On a là une liste de ce qu'a coûté chacune des 51 mamans, dont certains d'ailleurs évoluent parce que c'est des grossesses en cours, hein, donc les prix aussi, prix si on peut dire, les sommes engagées évoluent aussi. Mais par exemple pour Isabelle, c'est marqué, hein, 112 000 francs.
C'est pas cher pour un enfant.
Bon, pas cher pour un enfant, mais cher pour les petits dons qu'on cherche.
Ouais.
Hein? Mais il y en a aussi pour 3 900 francs. Enfin, c'est extrêmement différent.
Je trouve ça extraordinaire parce que ce mélange de dévouement à une cause qui est totalement contraire à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on vit au jour le jour. C'est-à-dire qu'il a, c'est vraiment l'élan de la vie quand on rencontre l'entropie. Et accompagné par ça, soutenu par ça, comme une petite plante qui monte, est accrochée à un tuteur, il y a le côté, pardonne-moi, côté, comment dirais-je, germain, allemand, précis, réglo, ça coûte ça, crac, et il y a une colonne, et voilà, on a dépensé de temps pour le. Et le résultat, c'est ça, voilà, bon, je trouve ça extraordinaire. C'est le rapprochement entre le côté magnifique du projet et le côté basique, strict de la comptabilité, c'est formidable.
Oui, et le bordel russe, alors, est-ce qu'on va l'entendre ?
On va entendre.
Absolument.
On va entendre parler de ça, mais on attend une minute.
Oui, enfin, la moyenne d'un bébé, c'est de 19 000 francs, si tu veux le savoir exactement. Voilà. Hein, ouais. La moyenne. Mais ça veut rien dire, parce que aimer quelqu'un, moi, je pense, ça passe par le porte-monnaie. On peut tourner autour du pot tant qu'on veut, peut donner des bons conseils, et la dame, elle te dit, vous avez bien parlé, vous avez un appartement, vous avez des jolis enfants, vous avez de l'argent, vous savez même pas de quoi vous causer. C'est ça ce qu'elles pensent, les bonnes femmes. Et si vous dites, écoutez, je vis de mon porte-monnaie, je vais vous aider, eh ben ça, c'est un langage qui passe. Et ça a toujours passé. Toujours. On avait dans les 51 un seul avortement, et encore. C'était une jeune fille de Toulouse, Catherine, et elle a perdu ses os, les os amniotiques, à 25 ans. Elle était sidaïque, elle avait sida quand même, très très gros problème psychologique. Elle voulait son enfant et tout, et finalement, bon, on l'a aidée, et ça a mal terminé. Elle, à cause de ça, elle a considéré ça comme un avortement. Le docteur l'a avorté. Il a dit, de toute façon, demain, votre bébé aurait été mort. Il n'y avait pas de, il n'y avait plus les os amniotiques. On ne peut pas sauver ça. Même docteur Perel m'a confirmé ça après, du point de vue médical. Eh bien, ça l'a tellement pris aux tripes. C'était le seul enfant qu'elle pouvait concevoir. Elle abandonnait l'espoir et elle s'est suicidée 3 mois plus tard à 300 mètres de l'avortoir. Alors qu'on me dise pas que ces avortements ne font rien à l'âme de la femme. C'est même le pire ce que ça fait à l'âme de la femme, parce que l'enfant, à la limite, peut-être, il est vraiment dans la miséricorde de Dieu, mais quel cadavre ambulant on laisse sur terre avec toutes ces femmes qui ont avorté. Il faut voir la misère, ce qui se passe. Et si vous voulez les aider, alors un petit mot, on dit, mais c'est merveilleux, on va vous aider. Elle vous dit carrément, mais vous êtes les seuls qui me disent ça. Ma maman dit, t'as qu'à avorter, ma meilleure copine t'as qu'à avorter, l'assistante de l'école dit, t'as qu'à avorter, le docteur, mais vous t'es en l'air. Mais c'est ça le langage que j'entends. Vous êtes le seul. Et rien que ça, déjà, ça fait ressortir toute la vie dans presque n'importe quelle femme. Vous croyez qu'ils aiment avorter, on leur a mis ça dans la tête, toutes ces histoires de choix. D'ailleurs, quel choix elles ont s'il n'y a pas déjà de l'argent et les moyens. Alors, un gros problème, c'est aussi logement. Ça, c'est très tard qu'on avait compris ça, que tout, beaucoup tourne aussi autour du logement. Justement, j'invite Svetlana d'en parler tout à l'heure. Finalement, on a acquis 4 studios sur Paris et autour de Paris, mais avec rien, on paye 2500 francs comme tout le monde, et une ex-locataire, et le soir même, on donne la clé, crac. Et l'autre jour, on avait une fille qui nous a été transmise de Croix-Rouge de Paris. Ils savent pas quoi faire avec ces gens-là. Ils ont un truc où ils mettent les clochards et tout, rendez compte, une fille enceinte entre les clochards, les bourrées et tout, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font. Et le matin, tout le monde dehors, 7h, terminé. Il n'y a rien pour des cas comme ça. Il n'y a rien. Alors, ils téléphonent à SOS Maman, Tout petit qu'on est, SOS Maman sait faire. Et on a fait, on l'a logé. D'ailleurs, on l'a logé là où tu étais aussi. Peut-être...
Svetlana, ouais. Présente-nous Svetlana, on va lui donner la parole.
Bon, Svetlana est une étudiante russe à Paris. Depuis combien de temps tu es à Paris?
Bon, maintenant, c'est depuis 2 ans.
En fait, deux ans.
Depuis... mon enfant, ouais. il va avoir 18 mois. Ouais. Donc, en fait, là, je suis arrivée un petit peu avant pour étudier. Ouais.
Et alors, donc, pour le logement, c'était ça surtout ton problème?
C'était ça mon problème. Ça veut dire, j'ai étudié, j'avais des petits boulots, je faisais des travaux au noir un petit peu pour subsister. J'étais toute seule, je n'ai pas de parents. J'avais des amis qui m'avaient hébergée pendant ma grossesse. Pendant presque 6 mois, mais la fille, en fait la femme dans le couple qui m'hébergeait, était aussi enceinte. Et donc à la fin, donc 6 mois, ça devient assez compliqué. Ils ont leur vie de couple et je n'arrivais pas à trouver le logement. Dès qu'un propriétaire apprenait que j'étais enceinte et que j'étais étudiante, que je n'avais pas de revenu stable... Bah, c'était le refus partout. J'ai cherché, je ne voulais pas gêner les gens où j'étais. Et j'ai rencontré une amie, enfin, que je connaissais depuis quelques mois. Je lui ai parlé de mon problème. J'étais désespérée. Et elle, en fait, elle travaillait avec SOS Maman. C'était pur hasard.
Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec tout ce sujet. Quand vous êtes arrivée en France, vous parliez français déjà?
Oui.
Vous avez appris...
À l'école et à l'université. Ouais, à l'école et à l'université.
Ah, bien, hein.
C'est
magnifique, hein.
C'est ahurissant.
Ouais.
Et donc, comment avez-vous été en contact avec SOS Maman?
Bah justement par cette amie-là que j'ai rencontrée.
Vous connaissez comment?
Elle a été, je crois qu'elle a été pendant un moment prise en charge par l'association.
Oui, et après, elle est actuellement une de nos assistantes sur Paris, qui va un peu dans les cafés, les gares, les métros. C'est là qu'on trouve, hein, les pharmacies.
Elle va démarcher en quelque sorte.
Oui.
Mais comment ça se passe? Elle voit des jeunes filles.
Le problème, par exemple, on a 15 mouvements pro-vie en France. Alors, certaines, bon, je les connais bien, on parle beaucoup entre nous. Ils ont le gros problème qu'on n'a pas de contact. On a des contacts avec des mamans qui ont plein d'enfants, qui ont des besoins. Bon, c'est là qu'on aide, des layettes et tout ça. Mais il n'y a presque pas le contact décisif les 2 semaines avant l'avortement. Comment vous voulez faire? C'est ça le problème. Et en vérité, on vit un peu dans une tour d'ivoire. C'est ça notre problème. Nous, les cathos, bon, on est établis, n'est-ce pas? On va à la messe, on donne un peu pour les pauvres, mais on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Et pire, on ne veut pas savoir. Parce que si vous commencez à vouloir savoir, ça vous fait le doigt, la main, le bras, et après vous êtes...
Oui, précisément, sans vous offenser, moi je voudrais quand même faire une remarque qui s'impose, c'est que c'est quand même un comble quand vous mentionnez incidemment que la Croix-Rouge française vous envoie quelqu'un, parce que je voudrais pas parler de bricolage, mais enfin... Vous avez aidé 50 femmes, et comme vous venez de le dire, la misère de femmes qui ont des grossesses non désirées, ou la drogue, ou le sida, etc., ça touche, on le sait bien, des centaines de milliers de gens. Alors, pourquoi faut-il que nous payions des impôts plus, je crois, que tout le monde en Europe, sinon les Suédois, et que on voit, par moment, l'autre jour, tous les 3 mètres, j'avais un type qui me tendait la main, qui était étalé par terre. On paye pas assez d'impôts pour que ces gens-là soient ramassés et aidés. On paye pas assez d'impôts pour que des femmes en situation de détresse soient aidées. Il y a des gens qui payent 40% de leurs revenus d'impôts. Est-ce que c'est pas encore... Alors, on verra peut-être tout à l'heure qu'on n'a même pas la consolation que ça passe dans le budget militaire, parce que Jean-Marie Le Pen vient de démontrer que l'armée française était à peu près vidée de sa substance.
Oui, mais c'est tout le problème. C'est tout le problème de l'œuvre que conduit Vigny, c'est-à-dire que, et puis que conduit de l'œuvre pro-vie en réalité. Il est évident qu'un État qui fait tout pour faire disparaître la population française de souche ne va pas financer des systèmes qui ont pour objet de faire survivre, enfin d'éviter cette disparition ou de la retarder, bien sûr.
Non, mais c'est logique. Par contre, je pense qu'il faut, nous, si tout est bouché par le haut, si nos députés ne veulent pas se remuer, hein, pour les femmes, pour les bébés, pour, ils ont la vie humaine la plus fragile, hein, si on en est là, eh ben, on est quand même catholique, ça veut dire on a 80% de ce pays, mais pourquoi on ne travaille pas par la catholicité? On parle par le bas, faire sauter le système. Mais on va sauver les enfants, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ces lois? Pourquoi on dit on ne peut rien faire, la loi est pour l'avortement? Mais on n'en a rien à faire. On sauve. Imagine, ça fait combien, 80% de catholiques? Ça fait 40 millions de catholiques. Mais qu'est-ce que c'est, 200 000 avortements pour 40 millions de catholiques? Alors, moi, j'appelle les catholiques qu'on agisse, carrément, qu'on agisse, sans fanatisme, sans intégrisme, tout ça. Non, ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte-monnaie, et croyez-moi, vous sauverez des gens. D'ailleurs, quand on a commencé ça, c'était une femme qui nous a dit, vous êtes marrant, là, Lunek, vous faites des tracts contre l'avortement, un génocide, mais est-ce que vous avez déjà aidé une seule femme enceinte? Oh là là, on n'a rien dit, on a fait une réunion, on a dit, cette femme-là, elle a raison.
Et c'est là qu'on a dit, on va faire quelque chose. On l'a appelé SOS Maman, dans l'UNEC. Hein, c'est pas une association à part. C'est une action de l'UNEC. Et suite à ça, on a développé ça avec un médecin, un prêtre qui nous assiste aussi, plusieurs assistantes maintenant à Paris, une à Toulouse, une en Roumanie, une en Lituanie et une en Ukraine. Hein. Et en Lituanie, par exemple, je crois que je vous avais déjà parlé, je veux juste répéter, c'est vraiment très, très... très très alarmant. Et il y avait là une jeune fille qu'on a gagnée pour notre travail, 21 ans, étudiante. On l'a connue dans le musée parce qu'elle faisait le guide, elle parlait bien anglais. Et elle a dit, alors là, ce que vous faites là, SOS Maman, tout de suite, là je m'engage. Je suis pas une fille engagée, mais là je m'engage. Eh bien, elle a déjà sauvé 4 enfants en un an, toute seule. Là, on lui donne plein de conseils, comment elle doit s'y prendre, trouver des amis, travailler avec elle, et les donateurs sur place, etc. Et elle a dit, mais pourquoi on ne va pas dans les avortoirs? J'ai dit, tu peux pas mettre dans notre structure des avorteurs. Tu peux pas. Tu peux pas, par le mal, faire le bien. Donc, oublie ces gens-là et tu perds ton temps. Elle a dit non, là, vous allez trop fort, moi je vais la voir. Elle est allée dans l'avortoir principal, je ne veux pas dire donner des noms, quelle ville. Elle est allée voir la chef avorteuse, si l'on peut dire. Et ils ont pleuré ensemble, vraiment, pleuré ensemble. Elle était tellement émue par cette jeune fille de 21 ans. Ils ont pleuré ensemble. Et après, cette femme lui a dit, écoute-moi, si vous faites ça vraiment, et si les Français ont un peu d'argent pour l'envoyer, moi, je peux te sauver 1000 bébés par an dans cette ville. Ah, c'était incroyable quand même comme défi. Oui. Incroyable. Alors là, nous, on peut pas aider 1000 enfants. Hein.
Moi, j'ai quand même une chose qui est incroyable aussi, c'est que l'avortement a été légalisé par le gouvernement, qui l'encourage, qui paye pour qu'on tue des enfants. Alors qu'on nous dit qu'on manque d'enfants, qu'il faut aller chercher des enfants sur toute la planète, qu'on nous raconte, puisqu'on parle là de retraite, qu'il n'y a plus assez de Français pour payer les retraites. Tout ça est totalement incohérent, mais c'est aussi incohérent que le reste. On tue des enfants sains qui sortent du ventre de leur mère, qui sont sains, et on dépense des millions lourds pour sauver des enfants qui naissent handicapés ou autres. Je ne dis pas qu'il faut tuer les enfants handicapés, je dis qu'il faut sauver les enfants sains et que les femmes françaises doivent faire des petits Français. Ça, nous l'avons dit, le groupe Front National, quand nous étions à l'Assemblée National, il faut qu'il laisse dans ce pays des petits Français. Et l'avortement, eh bien, ne devrait être vraiment... Et puis, enfin, avec toutes les méthodes contraceptives qu'il y a aujourd'hui, hein, l'avortement ne devrait même plus exister.
Est-ce que vous avez décidé, Svetlana, de participer aux travaux de SOS Maman à la suite de l'expérience que vous avez faite vous-même?
Bah, j'essaie de les aider tant que je peux. C'est-à-dire là maintenant j'ai trouvé un travail, donc je peux pas consacrer tout mon temps. Mais quand il y a besoin d'un conseil, parce qu'ils travaillent beaucoup avec l'Ukraine, un petit peu la Russie, tout ça, j'essaie de les aider au moins en trouvant des adresses, en essayant de relayer un petit peu le message.
Donc ça finit par créer une chaîne.
C'est vrai.
Tu nous donnes l'adresse. Tiens, il y a déjà un message d'un monsieur qui propose un studio.
Ah, voilà, c'est très gentil ça. C'est bien, voilà, avec le téléphone, je vais prendre contact. Oui, juste une toute dernière remarque, on a élargi encore un peu le spectre de tout ce qu'on peut faire, c'est les histoires d'adoption, justement. Alors les gens, ils vont jusqu'aux Philippines, jusqu'en Thaïlande, parce que personne... Alors, on a dit, bon, si déjà il n'y a pas d'enfants ici, au moins en Europe, il y en a quand même plein. En Russie, les orphelinats, en Ukraine, ils débordent, et c'est des enfants sans parents. Alors on a dit, pourquoi on ne bouge pas de ce côté-là? On a essayé tout seul, ça n'a pas marché. Finalement, on avait une maman qui en voulait vraiment à Paris. Et elle est allée là, elle est maintenant à Kiev. Elle est maintenant à Kiev pour le jugement du juge d'instance. Là. Elle a l'enfant déjà, après 6 mois de travail. Elle était 4 fois là-bas, là c'est le 5e voyage. Et voilà, le petit Nicolas, vous voyez, c'est juin 2003. Et elle va pouvoir le ramener en août 2003, ici. Hein? Un petit russe, perdu, pas de parents, voilà. Maintenant, il en a. Hein. Alors ça, c'est un truc aussi, les associations d'adoption. Mais ils font encore du fric avec ces mamans qui veulent qu'un enfant, et tout le monde se met sur le traducteur, n'est-ce pas, assermenté de l'ambassade, 6000 francs pour 10 pages. Elle a payé deux fois ce montant-là. Rien que pour avoir les quelques pauvres documents traduits en ukrainien convenable. Ah non, mais
ils n'ont pas honte,
ça, ça me fait vraiment rager. Donc il faut une association catholique qui fasse ça, qui le fasse gratuitement, qui le fasse par amour, et voilà que les choses... Mais il n'y en a pas. Donc on va essayer de faire quelque chose, et là, elle veut nous aider, par exemple, pour les layettes, pour acheminer tout un ballot, là, dans un orphelinat en Ukraine, parce que c'est pas facile tout ça, l'aide d'éloignement...
Alors, l'adresse pour aider, maintenant, oui. Comme
d'habitude. Bon, c'est l'adresse de l'UNEC, pratiquement. Vous écrivez, si vous voulez nous aider... SOS Maman, en parenthèse, UNEC. SOS Maman, en parenthèse, UNEC, UNEC, boîte postale 114, 95 210, Saint-Gratien. Le fax aussi, bon, on donne.
Oui, 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 le ouais.
Fax, téléphone, 01 34 12 02 68.
Il faut le répéter.
Alors, on a un petit système. Bon, il y a des gens qui.
Il faut répéter
nous...
le téléphone. C'est...
Oui, 01 34 12 02 68. Alors, on a développé un petit système de virement automatique. Donc, on a actuellement 50 familles qui donnent chaque mois 100 francs à 200 francs, selon le cas. Ce qui dit, alors, 15 euros, 15 ou 30 euros, selon le cas. Et ça, ça fait le gros de nos rentrées sûres. Mais quand on s'engage vers une femme, on va te donner tous les mois X ou va t'aider à ce montant-là. Il faut quand même être sûr que dans un mois, deux mois, j'aurai cette somme-là. Et ça, justement, ça nous donne cette sécurité de pouvoir nous engager. Et ça fait percutant, quand même.
Donc on peut faire demander un virement.
Oui, par exemple, on a des formulaires, vous pouvez les demander, voilà, ouais. Voilà. Ou alors des dons ponctuels, c'est toujours bienvenu. Il y avait une femme qui nous a dit, c'est merveilleux votre travail, c'était suite à une émission avec toi, il y a 3-4 ans. Elle dit, combien ça coûte un bébé? Alors là, c'était pas mal,
comme question. Hein.
Et j'ai dit, bon, le maximum qu'on a payé, c'est 2500 francs par mois. Vous comptez vous-même, avant la naissance, 6 mois et 12 mois après la naissance, ça fait dans les 50 000 francs. Elle dit, oh, tout, justement, il y a 50 000 francs qui traînent à la banque, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, je crois que je vais vous les envoyer. Et elle l'a fait. Oui, c'était gentil, vraiment.
Merci, Vini. Merci, Svetlana.
Non, une question pour lui. Votre association accepte-t-elle des personnes de religion réformée?
Bah, musulman tout, hein. Un bébé, c'est un bébé. Il y a des gens qui nous ont reproché ça. Ça, j'ai dit, on est des pompiers. Un pompier, il monte son escalier, il arrive là où ça fume, avec l'eau, il va pas dire, est-ce qu'il y a des musulmans là-dedans, hein. Il éteint, il sauve. Eh ben, c'est ça notre. On ne demande
il
pas.
Il sait s'il y a des musulmans, il se fait caillasser en arrivant.
Voilà. Oh là là, sauver les deux premières deux enfants musulmans, c'est-à-dire deux filles de 17 ans, et c'était très difficile, on n'a jamais eu jusqu'à présent. Ils veulent pas se faire aider par les chrétiens, semble-t-il. Par l'État laïque, oui, hein, mais pas par les chrétiens en tant qu'œuvre chrétienne, c'est un truc un peu spécial.
Svetlana, vous voulez dire quelque chose?
Oui, juste un petit mot pour l'association SOS Maman, enfin, pour ce projet-là. Comme j'ai été un petit peu prise en charge aussi, et j'ai des meilleurs sentiments pour cette association, je voudrais les remercier de la part de toutes les mamans. Et je voudrais dire aussi, on a parlé du côté psychologique de la femme qui a avorté, mais on n'a jamais parlé du côté psychologique de la femme qui a accouché après avoir subi beaucoup de difficultés avant. Bah, c'est un deuxième souffle. C'est un deuxième souffle qui vous donne un énorme espoir pour le futur, pour l'avenir, qui vous donne les forces pour construire, reconstruire sa vie. Et moi, j'ai vécu tout ça. Et je voudrais dire encore merci. Merci, merci, merci. Mille fois.
Merci à vous, parce que les auditeurs ne vous voient pas, bien sûr, mais on voit que vous êtes épanoui, je dirais. Voilà.
Alors, c'est vous, Charles,
c'est
vous.
C'est pas si bon.
C'est vrai, on dit toujours l'avortement, c'est un problème. On ne résout pas un problème en tuant un bébé, on crée un problème. Et en évitant ça, on refait sa vie et on redevient sérieux et on bâtit toute la vie autour. Et on a plein de témoignages comme ça. C'est vraiment parfois bouleversant.
Merci Vini, merci infiniment. Je rappelle l'adresse de l'association UNEC, boîte postale. Alors, tu vas
114
Saint-Gratien
95-210.
On est bien dans notre numéro à deux, là.
À deux voix. Rapidement, je profite là, du changement de personnage. Une auditrice nous a demandé de répéter les coordonnées du Bonheur est dans le pot. Alors, le Bonheur est dans le pot est publié aux éditions du Dauphin. Et les deux auteurs sont Inès Perret, P-E-Y-R-E-T, et Laurent Dapoigny, D-A-P-O-I-G-N-Y. Et puis, samedi prochain, 28 juin, de 15 à 18h30, Gabriel Cluzel dédicacera Rien de grave à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, métro Saint-Michel.
Alors, je vais faire un aveu. J'avais invité Roger Hollande ce soir pour qu'on parle de son livre. Mmh. Un livre qu'il vient de publier. Tu vas être obligé de revenir, Roger, parce que le fait est que la conversation nous a emmenés sur des brisées qui n'étaient pas prévues. Et comme j'ai pas encore lu ton livre, j'étais un petit peu ennuyé pour en parler. Bon, donc, est-ce que tu acceptes de revenir prochainement? On parlera vraiment du bouquin, là. Donc, tu peux déjà rappeler le titre et donner le contenu.
Le titre du bouquin, c'est « Israël-Palestine, un seul mensonge ». Et d'ailleurs, je signe ce livre à Paris le samedi 5 juillet, au Petit Pont. C'est la librairie qui est à côté de Notre-Dame de Paris. Librairie du Petit Pont.
C'est France Léo.
Oui, c'est ça.
C'est l'ancienne Ricolie, Saint-Nicolas, rue du Petit Pont.
Je signe de 15h à 19h.
Ne t'en va pas, Vini, parce que Roger veut te parler.
Samedi 5 juillet, de 15h à 19h, Israël-Palestine, assez de mensonges.
Donc on fera on prendra plus de temps pour parler de ton livre dans une prochaine émission. Là, je voudrais annoncer quelque chose.
Je voudrais qu'ils redisent Israël-Palestine, assez de mensonges, voilà. Et la suite, parce que j'ai pas écrit.
Godefroid Bouillon.
Godefroid Bouillon.
Oui. Il est
en vente aux éditions Godefroid Bouillon. Il est en vente au CNC à Paris. C'est 28 euros avec le port. Hein, et je signe à Paris, c'est facile donc de l'avoir, le 5 juillet, de 15h à 19h.
Voilà, c'est parfait.
Alors, je te redonne la parole tout de suite, Roger, parce que je voudrais t'interroger sur la Corse. Mais avant, il faut que j'annonce le concert Beethoven piano violon. Vous savez, c'est ce qu'organise Juliette Mills. Je l'ai invitée plusieurs fois à cette émission. Elle nous a raconté comment elle travaillait. Vous savez que Juliette a eu un très grave accident il y a maintenant quelques temps et elle vient de subir une nouvelle intervention très lourde dans le cadre de la réparation des blessures consécutives à cet accident. Elle vient de sortir de l'hôpital. Elle sera donc le samedi 28 juin à 20h30 je vais y arriver, vous inquiétez pas, ça vient lentement, mais ça vient. Oui, c'est la chaleur, mais moi je suis un petit peu gâteux en vieillissant, je deviens un petit peu gâteux.
Non.
À l'endroit où se passe cette manifestation, c'est-à-dire en l'église Saint-Sérin de Béthon, B-E-T-H-O-N. C'est à 20h30, et vous savez, donc les interprètes sont d'une part Yuri Boukov, d'autre part Patrice Fontanarosa, et ça se passe dans un décor qui est réalisé par les huiles sculptées de Juliette Mills, qui sont de pure merveille et qu'il faut voir. À 20h30, il y aura un buffet avec les artistes et les personnalités. Et je vous conseille vraiment d'y aller. Les solistes s'appellent Catherine Chouraki, Isabelle Chaumet, Bertrand Caz. Non, pardon, ça c'est autre chose. J'ai effacé ce que je viens de dire. Je vous conseille vraiment d'aller écouter le concert Beethoven piano violon de Yuri Boukov et Patrice Fontanarosa. D'abord parce que ce sont deux grands interprètes. Et ensuite parce que les huiles de Juliette Mills sont magnifiques. Et puis aussi parce que Juliette mène un combat littéralement héroïque, il faut le dire, contre sa souffrance, qui est terrible. Et elle a besoin d'être soutenue dans ce combat, et elle a besoin qu'on lui manifeste tous notre amitié et nos prières aussi. Et je crois qu'une bonne façon de le faire, c'est de se rendre donc le samedi 28 juin 2003 à 20h30 à Béthon, en l'église Saint-Sérin. crois que vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'auditeurs sont déjà allés voir ces spectacles et sont tous revenus absolument émerveillés par la qualité de ce spectacle. Alors, béton, c'est 51-260. Qui est capable de me dire 51, à quoi ça correspond?
C'est pas la Marne?
C'est la Marne.
La Marne, voilà. Vous savez des choses que moi j'ignore. Pour tout renseignement, 03-26-80-29-77. 03-26-80-29-77.
Elle était à 3 la dernière fois qu'on l'a reçue. Elle aime la champagne, ou le champagne peut-être.
J'espère qu'elle aime le champagne, parce que j'espère qu'on pourra en boire plusieurs litres quand elle sera enfin remise de son terrible état qui a été provoqué par cet accident.
Serge, comment allons-nous faire? Il nous reste 10 minutes. Excusez-moi,
Victoria. Attendez, je commence parce que j'en ai pour une seconde. On demande la station de métro la plus proche de la place Franz Liszt. Le métro
Poissonnière. Voilà.
Alors, il nous reste 10 minutes et vous voulez parler de la Corse avec Roger Hollande. Et moi, je voudrais qu'il nous parle, je ne vais pas faire le numéro que j'avais prévu, du tableau que Jean-Marie Le Pen a fait de l'état de notre armée. J'ai trouvé ça, pourquoi ne pas le dire, même si eux ne nous font pas souvent de publicité, sur une double page du numéro de Minute qui vient d'atterrir dans les kiosques. Et c'est absolument terrifiant. Je savais qu'on n'avait qu'un tiers de porte-avions. Ouais, je savais que le Rafale et le Charles Leclerc étaient déjà un petit peu fatigués, à peine nés, mais le tableau, la synthèse que fait Minute du tableau que Jean-Marie Le Pen a dressé précisément chez vous à Neuville-sur-Barangeon le 15, c'est terrifiant. Alors Serge, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne 5 minutes pour chaque sujet?
Je crois que ça va être difficile, on va le traiter en 10 minutes de parler de la Corse et de l'armée française. Bon, on pourra en reparler quand je reviendrai, mais on peut dire deux mots ce soir. Il est bien sûr et certain que les socialos avaient commencé à tuer l'armée française en cassant déjà le moral et la façon d'être soldat dans l'armée française, et que lorsque M. Chirac a décidé de créer l'armée de métier, bien tous les grands stratèges qui ont servi son projet avaient simplement oublié une chose, c'est qu'un soldat de métier c'est payé beaucoup plus cher qu'un soldat appelé. Mais ça paraît totalement idiot, mais le problème est là. Alors, il y a plus d'argent pour le matériel, pour l'entretien du matériel, parce que les trois quarts du budget passent pour la solde. Ça, c'est une vérité première. En plus, ils ne savent pas où trouver les soldats. Il y a des gens qui ont été refusés dernièrement parce qu'ils étaient trop Front National. Alors, on en est là. On cherche des milliers de soldats. On a besoin de milliers de soldats, mais on vire les gens parce qu'ils sont trop patriotes, trop militaristes. Ils n'ont pas été pris parce qu'ils étaient trop militaristes. Alors, il y a encore quelques bonnes unités. Il y a encore des unités qui sont commandées, mais la situation est très très grave parce que le matériel est vraiment, dans beaucoup de régiments, HS à 40, 50, voire pour les hélicoptères à 65%. Quant au porte-avions Charles de Gaulle, ça me fait mal chaque fois que j'entends dire du mal de ce porte-avions, parce que c'est un prototype, et tout le monde sait très bien qu'un prototype, ça n'est pas facile à mettre en place. Mais là aussi, pour faire une marine de guerre, pour faire des bâtiments de guerre, pour se lancer dans la construction d'un porte-avions atomique, il faut des dizaines et des dizaines de services avec des spécialistes. C'est incroyable le nombre de spécialistes qu'il faut. Alors, il aurait été intelligent de lancer un programme de 2 ou 3 porte-avions qui ne nous auraient pas coûté le prix que celui-là nous coûte. En plus, il n'était pas nécessaire de désarmer immédiatement les 2 vieux porte-avions qui faisaient encore l'affaire et qui pouvaient attendre. Les stratèges militaires, pendant des décennies, nous ont abrutis en nous disant qu'il avait besoin de 3 porte-avions, hein, 2 à la mer et 1 en réparation. C'était logique. Eh bien, aujourd'hui, on va arriver à ce qu'on n'aura même pas un porte-avions à la mer, puisque le Charles de Gaulle, qui est seul, hein, va rentrer en grand carénage, en entretien, et puis lorsque on fait rentrer un porte-avions ou un bateau, un bâtiment atomique en réparation, il faut des délais, il faut tout un tas de sécurité. Mais le drame, hein, est là. à tous les gens qui nous dirigent, y compris le président de la République, sont fautifs, parce que ce Charles de Gaulle, qui d'après moi est un bon bâtiment, mais il n'a pas eu dès le départ la longueur voulue, parce qu'il ne devait pas être construit là où il a été construit. Mais il y a eu des magouilles du Parti communiste, de la CGT et autres, pour qu'il soit construit là. Et le bassin dans lequel il était construit, oui, le bassin dans lequel il était construit ne permettait pas de lui donner la longueur, exactement la longueur voulue, puisqu'il manquait, 4 mètres. On a donc rajouté 4 mètres. Mais le drame de ce porte-avions, qui je dis est un beau bâtiment, c'est qu'il n'a même pas ses avions. Il n'a même pas ses avions. Et l'aéronavale, alors, n'a même pas les hélicoptères qu'elle devrait normalement avoir, puisqu'à bord du Charles de Gaulle, ce sont bien souvent des hélicoptères de l'armée de terre qui sont embarqués. Donc, là aussi, comme pour tout le reste, ces gens qui nous gouvernent se foutent du monde et prennent les Français pour des cons. Voilà, le résultat, c'est cela.
Merci Roger, je crois que c'est un résumé parfaitement lumineux de cette situation. C'est effrayant, mais surtout c'est totalement révoltant de voir à quel point on est gouverné ou par des abrutis ou par des crapules, et généralement par un joyeux mélange d'abrutis et de crapules.
Quant au problème corse, qu'il faudra qu'on revienne dessus, il est sûr et certain que ce vote n'est pas du tout nécessaire, hein. Il y avait un grand département, on a fait deux départements, aujourd'hui on va refaire un département, on va supprimer ceci pour rajouter cela, il va y avoir tout un tas de points de décision qui vont être mis en place, et c'est pas ça qui va arrêter les magouilles. Ah, c'est pas ça qui va arrêter la magouille. Parce que lorsque le gouvernement français a fait la part belle aux indépendantistes, eh bien moi, quand je représentais le front en Corse, et aujourd'hui c'est Martinelli qui représente le front avec courage et avec beaucoup, beaucoup d'ardeur, moi j'avais dit à la télévision à Ajaccio, en direct à l'émission de midi, je n'ai aucun respect pour les indépendantistes corses, parce que ils veulent que la France s'en aille, mais ils veulent le pognon de la France. Alors le jour où ils diront, nous ne voulons ni de la France, ni de son argent, ce seront des gens respectables. En attendant, pour moi, ce sont des gognafiers, des bons à rien.
C'est évidemment pas un langage très diplomatique, mais cela dit...
On va pas rompre les relations avec la Corse.
Personne ne m'a serré la main à la sortie de la télévision, et tous les gars faisaient en sorte de ne pas être vus avec moi.
Merci Roger, merci d'avoir été avec nous ce soir, et pardon de t'avoir fait faux bond pour parler de ton livre, mais on fera ça prochainement.
Non, je reviendrai.
Comme je reviendrai. Merci Klaus d'être venu. Merci Patrick d'être là, et merci Victoria, et puis à la semaine prochaine, et d'ici là que Dieu nous garde plus que jamais.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 25 juin 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire.